Et aujourd'hui, donc, on va aborder ce thème, lesbiennes aujourd'hui, quels enjeux, quelles perspectives militantes, quelles alliances. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous, à ma gauche, Ulrike Jans, qui représente, tout à gauche, Ulrike Jans, qui représente Lesbenring, qui est l'équivalent, enfin, qui est une coordination des organisations lesbiennes en Allemagne. Ensuite, Barbara Lantmann, qui est l'organisation des lesbiennes suisses, qui est aussi une coordination des organisations lesbiennes en Suisse. Et puis, notre complice, amie, comparse, Sabrine Al-Razache, qui s'occupe, que je prononce mal, qui collectivement, à nous deux, avons, enfin, entre la coordination lesbienne et les Lesbiennes of Color, nous avons organisé ces deux journées de rencontre des organisations lesbiennes en Euroméditerranée. Voilà, donc les présentations sont faites. Vous avez aussi Catherine Morin-Lessec qui vient d'arriver, qui est aussi une coprésidente de la coordination lesbienne en France. Et dans la salle, vous avez, pas encore toutes, mais bientôt toutes les représentantes des associations, des organisations qui font partie de la coordination lesbienne en France. On a Evelyne Roche-Dereux. Enfin, je pourrais en citer tellement là. Bon, allez, c'est parti. On va commencer par la Suisse. Par l'OS, Organisation des lesbiennes suisses.
Alors, vous me dites si jamais c'est pas assez fort. Alors, merci de m'avoir invité déjà. Merci d'avoir cette initiative de réunir toutes ces associations lesbiennes d'Europe. Ça, c'est une excellente idée. Et d'ailleurs.
Ça commence bien.
Alors. L'Organisation suisse des lesbiennes est une organisation, c'est une toute petite organisation conforme au pays dans lequel on vit. Cette organisation a été créée en 1989. Donc au départ, c'était des associations régionales, comme ça, des groupes de femmes qui militaient pour la thématique des lesbiennes dans chaque petite région. La Suisse, elle a une particularité, c'est qu'elle est multilingue. Donc c'est toujours très difficile de réunir les femmes sous un seul toit. On a d'abord organisé des groupes locaux qui finalement se sont rendus compte que pour être influentes en politique, étant donné la non-visibilité des lesbiennes en politique en général, il fallait s'unir. Donc on a créé une fêtière qui s'appelle l'Organisation Suisse des Lesbiennes, qui est beaucoup plus active dans la partie germanique du pays, puisque c'est quand même la plus grande partie. Hein, la Suisse alémanique représente à peu près 60% de la Suisse. Les romans, les francophones 30% et les italophones on va dire 5-10% avec encore une toute petite particularité, les romanches. Donc il a fallu réunir toutes ces personnes et le siège de l'organisation se situe à Berne. La LOS est née en 1989 avant l'organisation suisse des gays, ce qui est quand même toujours à noter, j'ai fier de ça. Et puis, très vite, il y a les combats qui se sont engagés parce qu'en Suisse, finalement, on n'a pas de loi de discrimination, mais on n'avait absolument rien qui ressemblait à un PACS ou à une union civile. Donc, un des premiers combats, ça a été, bien entendu, une loi pour les couples de même sexe, pour qu'on puisse établir juridiquement les relations. On a dû lutter aussi à l'époque. On a un système politique en Suisse qui veut qu'à chaque fois qu'une loi est votée au Parlement, il y a toujours la possibilité de faire un référendum. Et généralement, les partis conservateurs, qui sont quand même assez puissants en Suisse, hein, la Suisse est quand même dirigée majoritairement par la droite, déposent systématiquement des référendums quand on a des lois qui sont un petit peu progressistes ou qui vont un petit peu à l'encontre de l'ordre moral. Donc, bien sûr, on a eu droit à un référendum quand on a voté, quand le Parlement avait voté une loi qui établissait la loi pour l'âge pour la minorité sexuelle identique pour les homos que pour les hétéros. Et du coup, il a fallu se battre pour ce référendum. À chaque fois, c'est des combats qui prennent énormément d'énergie parce qu'il faut aller dans la rue, il faut récolter des signatures, il faut convaincre les personnes. Et l'Organisation suisse des lesbiennes est née, en fait, de cette énergie d'aller faire des débats, d'aller à la télévision, d'aller dans la rue, d'aller militer pour toutes ces questions. Donc ça, c'était un des grands sujets. Cette votation a été gagnée, d'ailleurs. Ensuite, on a déposé, en 1994, je dois traduire, 94, déposé une pétition avec 85 000 signatures, ce qui, pour la Suisse, est quand même assez conséquent, pour justement la loi qui plus tard va devenir la loi sur le partenariat enregistré. Il s'agissait, on demandait en fait les mêmes droits pour les couples, quels qu'ils soient. En Suisse, on travaille beaucoup avec les gays, avec l'organisation suisse des gays, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On n'est pas très visible et malheureusement, on est encore toujours dans cette optique où la presse, généralement, quand elle parle de la question des personnes homosexuelles, passe toujours par le mot gay, passe rarement par le mot lesbienne. On a fait des études là-dessus. Donc c'est vrai qu'on travaille énormément avec l'association suisse des gays. Et on a quand même de bons rapports. Donc grâce à ça, on a quand même obtenu de bons succès politiques. On a déposé donc cette pétition en 94, donc en 94. Et en 2005, c'est-à-dire 11 ans plus tard, ça va long chez nous, hein, on appelle ça la politique des petits pas, parce que ça passe là, ça passe au département de ceci, ça passe au Parlement, c'est la petite chambre, la grande chambre, ce qu'on appelle Conseil national, Conseil des États. Et puis après, évidemment, notre éternel référendum, parce que vous avez des chrétiens bien pensants qui trouvaient que c'était absolument scandaleux d'octroyer des droits aux personnes homosexuelles. Donc, on a encore une fois, on est parti en campagne.
Est-ce que tu peux doucement, juste pour les...
Oh, pardon. Sorry. Ouais, ok. Ah bah pour... Alors ça, ce sera la première fois que vous avez une Suisse qui parle trop vite. Hein.
Elle était facile.
Ah, c'était une grosse perche.
C'était pas mal.
Ok. Donc, après de grands débats, des fois houleux et douloureux, on a obtenu finalement que le peuple suisse a voté à 54% pour le partenariat enregistré. Si on analyse le chiffre, on se dit que c'est pas énorme, puis en même temps c'est énorme parce que je suis pas sûre que dans certains pays qui ont aujourd'hui des lois comme le mariage pour tous, si on passait en votation, est-ce que vraiment la loi serait approuvée ? C'est pas évident. Donc ça a été un combat énorme. Les associations ont grandi jusqu'à ce moment-là. Vraiment, toutes les associations, et la LOS avec, ont pris des forces et ont grandi en nombre et en puissance, en respectabilité. Enfin. Et puis après, ça a été le flop. Quand on a obtenu cette loi, 2005, tout le monde s'est dit, bah, va bien, il n'y a plus rien à faire. Et le militantisme, il a fait une espèce de chute monumentale. Et chaque année, on rame, on calcule les gens qui s'en vont, qui quittent nos associations, qui disent « mais il n'y a plus rien à faire ». Donc c'est un petit peu le défi d'aujourd'hui pour nos associations. On est confronté à deux grands défis. Le premier défi, c'est pourquoi vous fusionnez pas ? Pourquoi est-ce que les associations LGBT ne sont pas une seule grande association, hommes, femmes, trans, tout le monde ensemble ? Ça, c'est une des grandes questions. Et puis l'autre question, mais au fond, pourquoi vous battez-vous encore aujourd'hui ? Donc, il y a 1000 réponses qu'on peut donner encore aujourd'hui, évidemment, parce qu'il y a 1000 raisons de continuer à se battre, mais c'est plus difficile aujourd'hui parce qu'on a plus, en Suisse, en tout cas, on a l'impression un petit peu d'avoir obtenu beaucoup de choses, alors que c'est pas vrai, parce que si on détaille les lois, on se rendra très vite compte que nous sommes encore gravement discriminés, et en tant que femmes, forcément, deux fois discriminées, parce que les femmes sont encore discriminées aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de la question. Moi, je travaille à 90% pour cette organisation. C'est un immense privilège. Je suis très heureuse de pouvoir travailler, de pouvoir réunir en fait, le domaine professionnel et ma passion, parce que c'est un peu ça. J'ai la chance d'être bilingue. Donc, ça me permet aussi de traverser la frontière linguistique entre Berne, en fait, entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Et puis, je suis active aussi en politique un petit peu. Donc je pense que c'est une des alliances qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui, en tout cas pas en Suisse. Alors, on est obligé de travailler avec les politiques et tant qu'à faire de les infiltrer, je dirais, pour pouvoir avancer. Voilà, ça c'était un petit peu ma présentation. Merci pour votre attention.
On passe la parole à Ulrike.
Ah oui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je parle un petit peu le français, mais pas assez pour la représentation. Je présente en anglais. Lesbring has been founded 31 years ago, and during these years became an umbrella organization for lesbian groups in Germany, and also for some of the lesbian members of lesbian, gay, and feminist organizations. But individual lesbians are also still very welcome. So it's difficult to name the number of members altogether at several thousands. And of course, Lesmering has thousands of friends on Facebook. We are convinced that young lesbians are not the registered association kind of girls anymore, as we have been so many years, especially in Germany, I think. So it's important to reach them elsewhere. Not an too easy task, and one I hope to learn about on this conference. In 2012, we celebrated the 30th birthday of the Lesbenring with a big party at the traditional lesbian spring meeting that year taking place in Nuremberg. Lesbenring has always seen itself as a feminist organization, taking on board feminist issues and, of course, all kinds of lesbian issues. It's a registered association, of course, and the main service to its members is the bi-monthly Lesbenring Info, which got a relaunch some years ago and is now produced by three lesbians in Leipzig in East Germany. Each issue having a special theme. The latest one is, for example, focusing on the question, how do lesbians vote? Because in Germany a new government will be elected in September this year. Lesbenring is the only organization in the German Women's Council, it's called in German Deutscher Frauenrat, the most powerful but quite mainstream women's organization in Germany. Nevertheless, it's important to be there as lesbians and to try to raise lesbian questions and issues there. Since 2 years now, there is an important foundation in Germany dealing mostly with lesbian and gay history. First and foremost, history during German fascism and after. It's called the Magnus Hirschfeld Stiftung. Lesbenring has a good chance of an influence there because our press spokeswoman, her name is Elke Heinecke, is representing Lesbenring in the foundation board of trustees. And we have also been able to claim lesbian feminist participation in the scientific advisory board. They don't have a really easy job there. Talking of the press spokeswoman, her job is to bring in lesbians' position in politically important issues, the latest being the question of homosexual marriage and, for Germany, the special tax issue, which are connected to marriage in Germany. It's called something like spouses splitting, and it's giving financial benefits to the classical marriage model, where the husband is the main breadwinner and the wife is either a housewife or just earning a tiny amount of money. Lesbenring has for a long time voted for getting rid of this tax model, but right now it has been allowed to same-sex married couples too, following the politics of much more mainstream gay lesbian organizations. But we are still working on other options, that's taking every person, every man, woman, lesbian, as a responsible and autonomous being, also concerning taxes. A little bit about international connections. Sometimes we have an international issue in our Lesbenring Info. We are a member of ILGA, and I try to follow at least the European ongoings of ILGA, ongoings and activities of ILGA. And just recently, we've decided to use our membership in the Deutschen Frauenrat, the German Women's Council, to bring in the issue of the difficult situation of lesbians and gay, of course, in some East European countries now, and the issue of lesbianism as a reason for the right to asylum. When I had to bring in the draft of this speech, we have been asked what we are proud of. We are proud that we are still there after more than 30 years, there and alive, and have been working for lesbian rights and visibility continually for more than 30 years. I have asked my colleagues in Lesbenring for more reasons to be proud about Lesbenring activities, and they named especially two big lesbian feminist conferences when Lesbenring turned 20 and 25, and a wonderful and very much remembered coming out campaign around 1995, and a lot more reasons. And I've also been asked if we think we are still important. Yes, we are, for many reasons. but mainly to maintain a position that asks for more than the mainstreaming, and we also call it mainstreaming, political developments that accept lesbians and gays, of course, when they fit into a heterosexual model of life, just pretending to be like everyone, just normal people. Saying this, it's obvious that we in Germany are in a quite privileged situation in comparison to lesbians in many European and non-European countries, where living as a visible lesbian is really a very dangerous thing to do, and therefore just being accepted as a normal person would be a real progress, and fighting for this, a real progressive position. But having started to organize and making politics in the 70s, we still remember that we wanted not just to claim our part of the cake, but to also challenge the receipt and making of the whole cake, calling it heterosexism or compulsory heterosexuality. I guess heteronormativity is a term much more used today. So, for example, Lesbian Ring has many years ago formulated as a programmatic position that marriage can't be a lesbian feminist dream target. At that point, quite some lesbians left the organization. Others, like me, became members just because of this position. Lesben Ring talked about detesting the heteropatriarchal institution of marriage, preferring very different concepts of relationships and networks between lesbians. Of course, that never meant that we participate in any conservative or right-wing actions against same-sex marriages. And members of Lesben have individually decided to legalize their partnership for a multitude of mostly practical reasons. But still, we think that marriage has never been a good option for women, and lesbians have a lot of experiences in other ways to live together, to support each other and in and outside of the couple context. During the last years, we've organized 3 special weekends of lesbians coming together to think about important issues. We call that a Denkwerkstatt, a think workshop, something like that. And the most important issues of thinking there have been the very basic ones about money, work, making a living. That maybe sounds strange because Germany is such a rich, wealthy country, but nevertheless, for a growing part of population, especially female population, poverty is a growing threat, especially in older age. We thought a lot about the complicated idea of the unconditional basic income and made the demand for it part of our politics. Lesbian organizations in Germany deal a lot with lesbian visibility in all streams of life. Being out and loud is still not the matter of course reality. It sometimes seems to be in the media or in the big city communities. A recent research found out that especially for lesbians who deal with more than one oppression because of being migrant, black, or disabled, on top of being lesbian, there are a lot of difficult and maybe dangerous situations to deal with. An issue in which lesbian contacts have been pioneers is what's called inclusion now. We've long ago tried to make all kinds of lesbian events reachable for lesbians with disabilities. Not always successful, of course, but more and more so. For example, the annual lesbian spring meeting can only take place if the lesbians organizing it can make sure that the location they've chosen is suitable for wheelchairs and hearing-impaired lesbians get a translation and signing language. Some lesbian groups support lesbian refugees and undocumented lesbians. As we all know, that's a very difficult issue all over Europe. We've heard about that yesterday quite a lot. And as I said before, Lesben Ring will be enforcing this issue by taking it into the German Women's Council. Another important issue that has been disputed for many years now is the persecution of lesbians in German fascism. It's much clearer for gay men because many of them have been deported to concentration camps wearing the pink triangle. It seems that the persecution of lesbians has been less murderous and organized. And it was more like a time of masking how Claudia Schoppmann, the German pioneer for the history of lesbians in the Third Reich, has called it. Persecution of gays and lesbian in German fascism has gone a long time till it got any official recognition. But now Germany has got a national memorial on homosexual persecution during National Socialism in Berlin. And the already named foundation Magnus Hirschfeld Stiftung offers opportunity for much more profound research and publication on these issues. And we have the chance that the history of lesbian will hold a strong, long, will, we have a chance. No, sorry, that's been wrong. We have to enhance that the history of lesbian will hold a strong, clear voice here. As we all know, it's always a challenge if talking about homosexuality is meant to include lesbians. Too often it's not, and we need to say so again and again. It's sometimes tiring, but it's necessary. Thank you. Merci beaucoup.
Alors merci en tout cas à nos invités de faire l'effort de parler en anglais, même si ça n'est pas leur langue. Et il faut dire que nous ne sommes pas à égalité. Nous nous exprimons ici dans notre propre langue. Elles viennent de partout, s'expriment dans une autre langue. Donc c'est un peu difficile, mais bravo pour elles d'avoir fait tout ce travail. Alors maintenant, je vais intervenir pour le compte de la coordination lesbienne en France. Et là, ce que j'aimerais vous faire partager, c'est un petit peu... Enfin, ce genre d'occasion, c'est l'occasion de faire un bilan. Et donc là, ce que j'aimerais faire devant vous, et au nom de toutes nos membres de la coordination lesbienne, c'est de faire une sorte de bilan, vous montrer où on en est et où on veut aller. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc la coordination... Alors, je vais juste reprendre ici une très belle carte. Voilà, cette belle carte montre toutes les organisations lesbiennes en France. J'en ai sans doute oublié. J'ai découvert hier qu'il y en a une à Dijon, Un Autre Regard, qui est une organisation historique et qui continue à fonctionner. Et j'en suis vraiment très heureuse. Alors, en ce qui concerne la coordination lesbienne en France, nous sommes vraiment une organisation de coordination. Et ce que je vais essayer de montrer dans un premier temps, c'est que nous nous efforçons de ne pas instaurer de système hiérarchique où il y a tout en haut une présidence et puis ensuite des membres qui viennent aux assemblées générales. Et ça fait depuis 2007, en fait, qu'on essaie d'entamer un véritable fonctionnement en réseau. Et ceci, c'est un peu l'héritage des grandes coordinations historiques qui ont toujours eu lieu de façon non formelle. En France, on en retrouve les traces dans les années 70, dans les années 80, et c'est à partir de 97, en pleine expansion du mouvement lesbien, que la coordination lesbienne, qui s'est d'abord appelée Coordination Lesbienne Nationale, s'est organisée sous forme d'association et est devenue Coordination Lesbienne en France, et non pas de France, parce que surtout, nous ne sommes pas nationalistes. Mais il se trouve que nous sommes localisé en France. Voilà. Et qui touchons-nous? Dans une réunion récente, quand on a compté au travers de nos organisations, au travers de nous-mêmes, combien de lesbiennes nous arrivions à toucher, nous arrivons à en toucher plus de 2000. Et c'est vraiment notre travail de regrouper les associations, de coordonner, de faire en sorte que ça se parle entre toutes les organisations. Il faut dire aussi que nous avons vécu un temps un peu plus mort. C'est comme ça, du moins, que je l'ai vécu. Parce qu'en 2003, donc il faut dire que le... Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Il faut dire que ce lien entre toutes les organisations et toutes les lesbiennes est toujours passé par une grande rencontre nationale qui avait lieu tous les ans, organisée par l'une des associations membres. Et puis, en 2003... c'est sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas. En 2003, ces grandes rencontres se sont arrêtées. Et ce fut une espèce d'espace un peu vide dans la coordination, le lien qui était entre nous. ce lien est devenu beaucoup plus ténu, beaucoup plus mince. Et à partir de 2007, on a vraiment essayé de refaire revivre ce lien. Alors je rends hommage ici à celles qui ont pris le flambeau pour le faire revivre, puisque cette première, une nouvelle rencontre a eu lieu en 2010, organisée par Henriette et Monique, qui sont ici de Repères de Jubilation, et en... qui était... Et cette première nouvelle rencontre, c'était vraiment le début de quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et le fait que ce soit organisé non pas par l'équipe de coordination, mais par des membres de la coordination, c'est très très fort. Et puis, l'année suivante, donc au col de la Schlourte, deuxième grande rencontre, organisée cette fois par la Lune, qui est ici présente, Marissa et Irène, à qui je rends hommage. Et cette rencontre-là... Et cette rencontre-là, parce que nous essayons toujours d'ouvrir nos horizons, s'est ouverte en fait aux organisations frontalières, et nous avions avec nous une organisation suisse et une organisation allemande qui ont participé à nos rencontres qui duraient 2 journées. Si bien que dans cette espèce de mouvement, quand le CEL, donc l'organisation lesbienne de Marseille, le centre évolutif Lilith, a mis cette option sur l'Europride en disant « Dans l'Europride, il y aura un espace non mixte réservé aux lesbiennes. » Nous, on a tout bondi là-dessus en disant « Eh bien, la rencontre nationale, ce ne sera plus une rencontre nationale, ce sera une rencontre ouverte sur l'Europe et les voisines et l'Euroméditerranée. » C'est comme ça qu'on est arrivé. C'est à ce moment-là que les LOX nous ont rejoints pour organiser ces rencontres, que la Lune y a participé, et c'est vraiment un travail collectif qui est extraordinaire. Et c'est un peu comme ça, en fait, qu'au travers, qu'on essaie de recréer, en fait, non pas une organisation... Alors, je vais... Il y a eu un moment très très fort, moi, qui m'a bousculée, et ça, je vais en parler. C'est le jour où, dans cette époque un peu floue, 2007-2008, où on essayait de reconstruire quelque chose sans toutefois y arriver, l'une de nos organisations nous a dit « Mais finalement, la coordination lesbienne en France est devenue une autre association. Et elle n'est plus vraiment l'émanation de ses membres, c'est une autre association. Elle vit sa vie toute seule. » Alors là, ça m'a vraiment donné un choc. Je me suis dit « Là, on fait fausse route. » Il faut vraiment qu'on renoue avec les lesbiennes, les organisations lesbiennes. Donc au travers de tout ce qui s'est passé par la suite, les rencontres, cette rencontre, on a renoué. Mais ce lien nouveau, par quoi passe-t-il aujourd'hui? Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Alors comment est-ce qu'on travaille ensemble? Donc on a nos rencontres annuelles. On a parlé hier de ce réseau qui est dédié au soutien des lesbiennes réfugiées. Nous, on assure la coordination, de telle sorte que l'information passe entre la Lune, entre les voies d'aile, entre les lesbiennes défacent les frontières. Ça, c'est notre rôle. Et ça fonctionne vraiment comme un réseau. Ensuite, on a lancé un groupe de travail au long cours, dont vous avez pu voir un spécimen du travail qui s'appelle la chronologie lesbienne, où là, on travaille main dans la main avec les archives lesbiennes. Et c'est très fort parce qu'en travaillant ensemble, on se renforce les unes les autres. Et ces 3 années de travail sur la chronologie, voilà, ils portent des résultats dont nous sommes les unes et les autres très fiers. Et puis, donc vraiment, ce que je vous disais avec cette Eurolesbo Pride, c'est encore un pas de plus dans la coopération généralisée. Donc on peut dire qu'on a vraiment réussi à reconstruire ce lien entre les lesbiennes, puisque nous avons maintenant cette lettre de diffusion mutualisée grâce à Bagdam aussi, qui contribue largement à cette lettre de diffusion pour faire circuler l'information entre toutes les lesbiennes. Et on a reconstruit aussi ce lien entre toutes les organisations. Mais néanmoins, il ne faut pas abandonner les autres terrains. Et les autres terrains, eh bien, c'est le milieu LGBT. Et là, Catherine pourrait vous en dire de bien belle sur le sujet. Nous nous interrogeons constamment sur ces rapports aux institutions LGBT. Mais en tout cas, être présente parmi eux, majoritairement eux, ça nous a permis de les confronter sur des sujets aussi importants que la gestation pour autrui, où nous avons mené des combats pour éviter, grâce à Catherine qui est ici, pour éviter que le mouvement LGBT, l'inter-LGBT, bascule dans les dans les pro-GPA, se prononcent en faveur de la gestation pour autrui, c'est-à-dire du recours aux mères porteuses pour résoudre leurs questions de filiation. Et nous n'avons pas réussi à les faire basculer, évidemment, contre la GPA, mais au moins, nous avons réussi à ce qu'il n'y ait pas de prise de position, alors que le lobby projet en faveur de la GPA, la gestation pour autrui, était extrêmement fort. Alors aussi, nos alliés, ce sont le mouvement féministe, puisque depuis une dizaine d'années, en fait, environ, le mouvement féministe intègre, par exemple, les violences lesbophobes parmi les violences faites aux femmes. C'est une grande victoire, et nous collaborons avec les organisations féministes, où nous menons des groupes de travail en commun sur la gestation pour autrui. Nous participons aussi au LEF, qui est le groupe de pression féministe européen, et elle-même, donc nous allons aussi avancer avec elle au niveau européen pour endiguer cette vague en faveur de la gestation pour autrui. Voilà. Et puis, il nous reste à faire entendre toujours, comme l'a dit Barbara ou bien comme l'a dit Ulrike, notre parole auprès des pouvoirs publics. Et là-dessus, on doit dire que, alors qu'on pouvait être entendu par le gouvernement précédent, non pas que nous collaborions, mais que, comme toute citoyenne, nous avons à être entendus, eh bien, avec ce gouvernement actuel, qui est PS, de gauche, nous n'arrivons pas à nous faire entendre. Nous le déplorons. Alors maintenant, où allons-nous? Où est-ce qu'on veut aller maintenant? C'est la question qu'on peut toutes se poser ensemble. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que il faut se positionner pour réfléchir à nos stratégies, à nos alliances, un peu après notre mariage pour tous, hein. On est de l'autre côté maintenant, quelles que soient les positions qui ont été prises, et là-dessus, les lesbiennes militantes se sont largement exprimées, et toutes les positions qu'elles ont exprimées sont répertoriées dans le site de la coordination, Mais notre grande question derrière, c'est celle de l'égalité. Les questions qu'on va se poser dans les années à venir, c'est vraiment celle de l'égalité, pas simplement l'égalité des droits, l'égalité, et celle de notre relation au mouvement gay. Alors, ouvrir le mariage aux LGBT a constitué, semble-t-il, une sorte de réparation symbolique consentie par la société face à des siècles de discrimination et de haine. Historiquement, et dans cette idée de réparation, le mariage a été ouvert successivement aux sourds et aux aveugles au XIIe siècle, aux esclaves, aux couples mixtes, c'est-à-dire au mariage entre blancs et noirs. Et ça a été ouvert de façon assez surprenante et définitive. Ça a été ouvert de façon définitive en 67 aux États-Unis. Donc on voit qu'on inclut progressivement dans cette institution des couches de la population, et maintenant les LGBT sont incluses aussi dans cette institution. Mais cette mesure, qui est souvent présentée comme une avancée dans l'égalité des droits, se limite de fait à unifier la situation des couples homosexuels et hétérosexuels. Le mariage et tous les systèmes de conjugalité officialisés offrent des avantages, droits de succession favorables, transfert du bail de l'appartement, couverture sociale, pension de réversion. Ces mesures dérogatoires, puisqu'elles ne sont pas partagées par tout le monde, issues des politiques familialistes d'une autre époque, introduisent une inégalité entre les personnes qui ont opté pour un statut conjugal et les autres. Alors que la société fait constamment appel à notre responsabilité citoyenne et que l'accès à l'autonomie est une revendication féministe, notre système social et fiscal nous considère sous le prisme de notre position au sein de la famille ou du couple. On a l'imposition conjointe, par exemple. Le RSA, on n'en bénéficie qu'en fonction du revenu des cohabitants de l'endroit où on se trouve. Et tout ça, ça renvoie en fait l'individu E et l'individu à la dépendance. Nous qui sommes pour une société égalitaire, solidaire et laïque, pour qui l'autonomie est un gage de liberté, nous n'y trouvons pas vraiment notre compte. C'est pourquoi nous avons lancé ce groupe de travail sur les droits propres, qui fonctionne aujourd'hui par visioconférence entre Romans, entre Nancy, Paris, et puis j'en oublie. Et ce groupe est une véritable, ce groupe de travail est une véritable aubaine parce qu'il nous conduit à reconsidérer tout le fonctionnement de notre société au plan fiscal et social, tout en recherchant, en analysant les solutions alternatives qui peuvent exister aujourd'hui. Et il y a deux pistes aujourd'hui. Il y a le modèle danois et puis il y a le revenu individuel d'existence. Et ça, notre ami Ulrike en a dit un mot aussi. Donc on voit que nous partageons des préoccupations sur ce sujet. Sur le sujet des droits propres, dont nous n'allons pas débattre ici, il faut être très très vigilante. Parce que sur ce sujet des droits propres, c'est-à-dire chaque individu a des droits de façon autonome. Si moi je veux transmettre ce que j'ai acquis dans ma vie, je devrais pouvoir le faire sous une certaine quotité, sans droit de succession. Tout le reste, avec des droits de succession, mais je devrais pouvoir le transmettre à qui que ce soit ma conjointe, ma compagne, ma voisine, ma sœur. Voilà. C'est juste pour illustrer les droits propres, ce sont mes droits à moi, ça ne résulte pas de ma situation. Eh bien, quand même, soyons vigilantes sur ce thème-là. Il faut être présente, nous autres lesbiennes, il faut être présente, nous autres féministes, parce que le courant libéral s'est approprié aussi ce sujet et il parle aussi d'individualisation des droits. Mais il en parle sous un angle totalement différent. Pour le système libéral, c'est tu cotises, tu as des prestations. Tu ne cotises pas, débrouille-toi. Ce n'est pas notre option. Nous, on est pour une organisation, une société solidaire. Ce n'est pas ça. La deuxième question qu'on se pose, donc ça, c'était le sujet de l'égalité. La deuxième question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est la question de nos alliances. Quand on interroge notre relation au mouvement gay, au mouvement LGBT, dans les années 70, cette relation, elle procédait de notre position commune de Dans les années 70, cette proximité, elle procédait de notre position commune de contestation de la norme hétérosexuelle et hétéropatriarcale, et ça ne procédait pas. Ça procédait beaucoup moins de notre situation de minorité discriminée. Or, aujourd'hui, dans cette période post-mariage, qu'avons-nous en commun ? Qu'avons-nous encore en commun avec les gays ? Parce que dans nombre de combats, en fait, nous les retrouvons dans le camp adverse, sur des terrains totalement opposés. C'est le cas, comme je disais tout à l'heure, de la gestation pour autrui, qui en est vraiment l'exemple le plus révélateur, parce que nous sommes contre le système d'exploitation et d'appropriation des femmes qui est provoqué par le recours à la gestation pour autrui. Et pour cette même raison, nous sommes aussi abolitionnistes. Et parmi les organisations LGBT, nous nous sommes heurtés à ce que l'une d'entre nous qualifiait d'homopatriarcat. Et cette question nous conduit véritablement à nous poser la question de nos alliances. Et je pense que c'est un des sujets que nous aborderons lors de notre rencontre annuelle à l'occasion du Festival international de films de lesbiennes de Paris. Nous profitons toujours pour faire une réunion nationale. Mais je dois dire que sur la question de nos alliances, se retrouvent sur nos positions, et heureusement, les lesbiennes des organisations mixtes, les gays qui ont une formation politique de gauche ou d'extrême gauche, c'est-à-dire en fait toutes les organisations qui appartiennent au camp de l'égalité. Donc nous ne sommes pas seuls sur ces combats, nous avons beaucoup d'alliés et c'est ces alliés dont il faut que nous rapprochions et avec qui nous devons coopérer. Et un autre combat aussi, c'est celui que nous avons vu hier autour justement de ce soutien aux réfugiées lesbiennes. Le terme soutien n'étant pas approprié, je ne sais pas lequel utiliser, parce que nous essayons vraiment de travailler, de fonctionner à égalité avec elles. Et comme je disais, c'est un grand bonheur au travers de ces rencontres des lesbiennes, des organisations lesbiennes en Europe-Méditerranée, d'avoir touché au travers de la communication que nous en avons fait, des organisations totalement clandestines du Sénégal, de RDC, du Cameroun, d'Ouganda, du Népal et du Bénin. Donc ça nous ouvre là encore une perspective bien plus importante sur le sujet qui nous occupe aussi, qui est d'œuvrer pour la dépénalisation universelle du lesbianisme et de l'homosexualité. Et puis, pour finir, déjà un résultat de ces rencontres, c'est que nous, notre information passe par différents canaux, mais il y avait un canal historique qui s'appelait le journal Lesbia Magazine, qui est né en 1981 et qui est une source fondamentale d'information entre nous. Eh bien, ce journal a cessé de paraître en septembre dernier, ce qui pour nous est un manque important. Eh bien, l'un des projets qui a déjà surgi de ces rencontres, c'est que nous sommes plusieurs à souhaiter sa renaissance, et d'abord sous une forme d'un portail web, ce qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile, et pour faire revivre cet endroit où en fait toute l'information sur le mouvement des lesbiennes, sur les activités des lesbiennes est concentrée. Et on l'a constaté quand on a travaillé sur la chronologie lesbienne, avoir un point central où toute l'information converge, c'est extrêmement précieux. Voilà, donc c'est déjà un petit résultat de ces rencontres. Maintenant, je vais laisser la parole à Sabrine, voilà, des LOX.
Donc au fait, vous allez devenir high-tech avec le website et tout, quoi. Putain, c'est la classe. Bonjour tout le monde, merci beaucoup franchement de votre présence. Donc je me présente, je suis Sabrine Al-Rassaf, cofondatrice du groupe LOX, Lesbian of Color, qui a été créé donc en 2009 avec deux autres amies lesbiennes politiques, elles-mêmes issues de l'exil, notamment une indienne, Mourouni, qui est dans la salle derrière, et puis une émigrée, une française d'origine émigrée, franco-afro-américaine. Avant peut-être de répondre à la question effectivement très importante des enjeux, des alliances et des perspectives, je prendrai quand même un petit peu le temps de présenter le groupe. Donc le groupe est né en 2009. Il s'est renforcé par un site internet en 2010. C'est un groupe qui est constitué de lesbiennes donc issues de l'immigration en France, mais aussi d'exilées, de lesbiennes migrantes, de lesbiennes réfugiées. Ces lesbiennes-là, on s'est retrouvées autour quand même de deux éléments principaux, je dirais, constitutifs de notre vécu de Lesbian of Color, à savoir l'histoire de l'immigration, l'histoire de la colonisation et l'histoire de l'esclavagisme. En ce sens que, qu'on soit d'origine émigrée ou exilée, ou réfugiés ou émigrés, on a effectivement, en évoluant en France, une conscience forcément emprise déjà de l'histoire de nos pays, qui étaient anciennement colonisés, en l'occurrence pour ma part colonisés par la France, mais aussi toute l'histoire de l'immigration en France. Et ce, pour une raison simple, parce que nous souhaitons mener un activisme qui soit le plus cohérent possible avec notre vécu et avec notre quotidien. En ce sens que le groupe a été créé pour deux raisons principales. La première, c'est que il a souhaité, effectivement, certaines de nous avaient milité, avant de créer le groupe LOX, avaient milité d'une manière continue, d'une manière même très active, dans les milieux féministes lesbiens ou même dans les milieux féministes généralistes ou plus généralement dans les milieux LGBT. Il n'empêche qu'il y a toujours eu des tensions, il y a toujours eu des rapports de pouvoir, des rapports en termes de racisme, en termes d'exotisme, en termes d'incompréhension, en termes aussi d'approche de la lutte contre les violences faites aux femmes, contre la lesbophobie. Et donc, il nous a paru urgent en 2009 de construire un espace qui puisse être le plus, je dirais, le plus cohérent avec notre vécu, avec notre analyse, qui puisse répondre à une absence au sein des milieux féministes lesbiens et même au sein des milieux LGBT. Il y avait comme une espèce de in et out, c'est-à-dire que nous toutes étions dans les milieux, mais au final, on n'existait pas et donc on était invisibilisés. Alors, bien évidemment, on n'a pas créé juste le groupe pour être dans un constat qui est de dire il se passe des choses, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On avait aussi envie, et c'est la deuxième raison pour laquelle le groupe a été créé, qui était d'être créative, c'est-à-dire d'être actrice de nos propres luttes, productrice de nos analyses, évoluer dans un milieu non mixte pour porter une analyse en termes, une vision en termes d'intersectionnalité en ce qui concerne le racisme, le sexisme, la lesbophobie, avec bien évidemment une vision matérialiste, puisque nous nous définissons comme étant des lesbiennes féministes, des lesbiennes politiques. Par conséquent, puisque tu as parlé de l'inter LGBT, donc je rappelle, qui regroupe majoritairement effectivement toutes les associations LGBT en France, le groupe LOX n'est pas membre du collectif inter LGBT et n'est pas membre non plus d'un collectif féministe et n'est pas membre non plus d'un quelconque collectif, soit-il lesbien. C'est peut-être pour ça que la question justement des alliances est très importante. Nous, par exemple, puisque tu as parlé d'alliances, nous, par exemple, dans le groupe LOX, nous avons développé une approche d'alliance stratégique ponctuelle. Le terme est très important parce que pour nous, cette alliance qui va être créée à un moment donné, dans une temporalité bien fixée, avec des conditions bien claires, une stratégie définie et des objectifs bien clairs nous permettent d'évoluer dans cette alliance stratégique, le temps de cette alliance, d'une manière autonome, d'une manière aussi sereine, puisqu'on n'aura pas à se battre pour avoir notre place, on aura juste à avancer pour construire ensemble. Et si effectivement aujourd'hui les deux journées qui ont commencé donc hier sur les débats se déroulent plutôt bien, c'est parce que cette temporalité-là d'une alliance stratégique bien ponctuelle a été effectivement comprise de l'une et de l'autre avec la CLF et que ça a été mené, bien évidemment avec une souplesse, parce qu'il y a certains débats qui n'ont, dans les interventions, dans les intervenantes n'ont pas particulièrement dépendu des LOX, mais ça c'était une souplesse qui était volontaire parce qu'on ne connaît pas toutes les associations et que l'objectif principal était effectivement de permettre une visibilité des différentes associations dans le cadre européen et bien évidemment euro-méditerranéen. Cette alliance-là, dans cette temporalité-là, pour nous, LOX est très importante parce qu'elle nous permet effectivement, comme je dis, une autonomie dans l'organisation, une autonomie politique, bien évidemment, et puis surtout une non-mixité assurée de A à Z. Sans entrer effectivement dans une comparaison binaire entre effectivement l'organisation de l'Europride et la Lesbo Pride. Effectivement, ça se passe mal là-bas, ça se passe très bien ici. Il n'empêche que les faits sont là. J'ai croisé énormément de gays qui me disaient que la Lesbo Pride se maintenait très bien, fonctionnait même mieux. Ceci pour dire que cette question des alliances stratégiques donc, est très importante. Elle n'est pas infaillible, elle n'est pas parfaite. Il n'empêche que pour faire avancer certaines thématiques, pour essayer de faire prendre conscience que dans des milieux qui sont censés être des milieux qui puissent nous accueillir d'une manière, on va dire, naturelle, évidente, c'est pas si naturel que ça d'y être. Il n'empêche il n'empêche que la construction d'alliances est donc utile, voire nécessaire. Entre les différentes interventions, pardon, et puis la tienne, Marie-Joseph, c'est vrai que il y a des thèmes comme le mariage homo. On a parlé de la question de droit d'asile. On a parlé effectivement de la visibilité. On a parlé du fait. Je pense que c'est toi qui a parlé comme quoi vous étiez obligé de travailler avec des gays, me semble-t-il, etc. Bon, nous, c'est très simple. À l'Ox, les alliances avec les gays sont juste inconcevables. C'est juste parce que c'est cohérent. Enfin, c'est cohérent. On a essayé, hein, par le passé, individuellement, par le passé, on était dans les milieux LGBT, etc. et tout, et effectivement, on subissait une certaine forme de paternalisme de la part des gays, le machisme, le sexisme, l'exclusion. À partir de ce moment-là, honnêtement, c'était inconcevable, dans le cadre de l'Ox, et en plus dans mixte race, classe et sexe, d'intervenir avec eux, et en plus, ils ne comprennent rien. C'est vrai, quoi. Sérieux. La preuve, c'est qu'ils nous ont essayé quand même de nous empêcher d'avoir une lesbo pride sereine, quoi. Ils ont tenté un petit peu d'empêcher cette non-mixité. Mais bon, en tout cas, on a tenu tête. Le sel a tenu tête. Et du coup, ça se passe très bien. Je vous remercie.
Bonjour. Je voudrais juste rebondir sur ce que Sabrine vient de nous dire pour venir complètement en soutien de cette approche par quelque chose qui m'avait marqué dans un film qui s'appelle Born in Flames et dans lequel à un moment, enfin qui parle aussi justement des alliances ou pas entre les différents mouvements, les différentes approches, etc. où à un moment une d'entre elles ressort ce qui nous atteint parfois, le fait de, enfin, on regrette de ne pas être plus unis, etc. Il y en a une qui dit, mais est-ce que tu as plus peur d'un lion qui rentre par la porte ou de 1000 souris ou de 1000 cafards? Et je pense qu'effectivement, pour attaquer le système hétéropatriarcal et homopatriarcal, après tout, une multitude de courants ou d'assos, etc., c'est aussi tout à fait efficace. Et il ne faut pas avoir peur, effectivement, de nos divisions. Je pense qu'au contraire, je pense aussi à Audrey Lorde, etc., c'est ce qui permet aussi de se respecter. Et il faut être fort de ces divisions et savoir, par des alliances ponctuelles, effectivement, donner les coups de poing où il faut, etc. Et voilà, je repense, si c'est un film que vous n'avez pas vu, essayez de vous le procurer. Mais moi, je trouve qu'il est... Il inspire beaucoup aussi, et voilà, c'était juste pour venir en soutien de ce que tu venais de dire. Born in Flames, c'est un film qui a plus de 30 ans.
Merci. Et je voulais surtout revenir un tout petit peu sur ce que disait Marie-Joseph, sur où allons-nous et qui sont nos alliances. Et, bon, je parle sur l'expérience de la Lune. Déjà, je suis toujours un peu gênée parce qu'on parle beaucoup de nous, mais il faut nous situer dans une toute petite ville où ça ne bouge pas beaucoup, et où nous sommes arrivés un tout petit peu en mettant les pieds sur les assiettes, je ne sais pas comment vous dites ça, donc forcément, les pieds dans les plats, merci. Et donc forcément, on a attiré l'attention, et je pense aussi que derrière, il avait quand même un travail sérieux, des idées qu'on pouvait partager. Et sur nos alliances, je vous avais raconté un tout petit peu l'expérience qu'on a eue avec les centres LGBTI de Strasbourg. Et par contre, pour nous, la visibilité des lesbiennes, ça passe beaucoup, beaucoup pour la visibilité que nous avons dans la cité, dans les associations qui bougent, dans les mouvements qui bougent. Et donc, nous avons eu, par exemple, c'est quelque chose que j'ai parlé avec toi hier et qui m'est revenu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du fichier des non-advige. C'est une association, l'advige, c'était le fichier où on absolument... Toutes les associations devaient donner les noms de nos adhérentes. C'est l'époque de Sarkozy, ministre de l'Intérieur. On était obligés à donner la liste de toutes nos adhérentes au ministère de l'Intérieur. Donc à Strasbourg, ça a donné une grosse bagarre. Et il faut dire que la Lune, ça a été l'unique association LGBTI qui a participé pendant presque 3-4 mois à ces réunions. Et c'était drôle parce qu'après, on a eu un petit cadeau. Ils ont dit, OK, les associations LGBTI, non, pas vous, parce que ça touche votre intimité. Malgré ça, la Lune a continué à manifester avec ses associations. L'association Elami Attaque, Droit au logement, Extrême Gauche, on était tous mélangés. Et donc, ces associations nous avaient dit à un moment, ah, mais tiens, maintenant ça ne touche pas les lesbiennes, pourquoi vous continuez à lutter? Et là, on les a dit logiquement, parce que nous, on est pour la liberté, on est pour l'égalité. Et autant une citoyenne sera touchée, la Lune sera à côté de vous. C'est vrai que tout ça nous a donné beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de présence, mais nous a ouvert beaucoup de portes avec beaucoup de groupes alternatifs où nous avons pu travailler avec des hommes, avec des femmes, et où on a eu beaucoup moins de problèmes à imposer, parce que nous, notre non-mixité, on ne l'explique pas, on l'impose, c'est comme ça. Et ils ont compris beaucoup mieux que le mouvement LGBTI, y compris beaucoup de lesbiennes, de ces dites associations mixtes. Et pour vous donner un exemple, on travaille avec la Confédération Paysanne. On travaille, quand nous sommes, on a eu la chance d'être invité pour la mairie de Strasbourg à faire partie d'une plénière qui s'est créée, qui est la Commission d'égalité femmes-hommes. Et je suis très contente d'entendre les mots femmes et pas les mots genre, parce que moi aussi j'ai commencé à avaler un peu mal ça. Et donc quand nous sommes arrivés en tant que lesbiennes, il y avait des associations, pleines des associations féministes, avec beaucoup de salariés, nous on est bénévoles, et ils sont un tout petit peu mal à accepter qu'est-ce qu'ils faisaient les lesbiennes dans un truc féministe. Et donc autant la conseillère municipale qui nous a invités comme nous, on les a tout simplement dit que quand même le droit à la sexualité, le droit à notre orientation sexuelle et le droit à un épanouissement sexuel, c'est un droit important pour les femmes et qui s'est fait vraiment aussi partie des luttes féministes. On a été très bien affectés et depuis 3 ans, on travaille main à la main avec beaucoup d'associations et pour nous, en tant que lesbiennes et féministes, c'était très important parce qu'il y a beaucoup de centres socioculturels. Et j'ai utilisé des associations des quartiers, mais que personne ne malinterprète. Je dois être très directe dans mon français, parce que sinon vous me comprendrez encore moins. Et ça nous a permis, en tant que féministes et en tant que lesbiennes, aller à des petites associations des quartiers, travailler entre femmes. Parfois c'est un repas, parfois c'est un atelier de danse orientale, parfois c'est partagé, comme je vous disais, un couscous. Ça nous a donné des ouvertures. Qu'on essaye d'arriver, parce que pour nous, un petit peu, le féminisme a oublié un tout petit peu les femmes issues de l'immigration, qui avaient beaucoup de choses à apporter. Et des femmes, on a trouvé des exemples, des femmes qui ne pensent même pas qu'ils sont féministes, mais quand vous voyez le travail qu'ils font dans les quartiers pour sortir les femmes de la difficulté, n'oublions pas que la première discrimination des femmes, c'est la précarité, et tu les dis, mais vous êtes féministe, ça c'est du féminisme. Donc toutes ces alliances avec des groupes alternatifs, là on est souvent invité pour la Ligue des droits de l'homme, on avait jamais travaillé pour parler de sexualité, pour parler, on a eu un gros débat sur qui a peur du féminisme, par exemple, sur bien sûr les célèbres mariages pour tous. Donc toutes ces alliances, je pense que c'est des choses qu'il faudra développer, parce qu'à nous personnellement, avec Planning Familial, on travaille magnifiquement à Strasbourg. Il nous ouvre beaucoup de portes, par exemple pour les santé des femmes immigrées qui ont une couverture sociale. Les filles, ils font des petits magouilles de façon à que ces femmes puissent être soignées et qu'il y ait des médicaments sans payer. Donc je pense que c'est cette ouverture et c'est occuper l'espace associatif. Je vous répète, à Strasbourg c'est facile parce que c'est une petite ville, parce qu'on a eu la chance d'être là dans les bons moments. Je ne sais pas, parfois je ne crois pas dans la chance. Il a une belle phrase d'un auteur français qui disait que la chance ne visite pas les sottes.
Les sots.
Merci, traduction simultanée. Et je pense que c'est ça aussi, être dans les bons moments et quand on a rentré, pas laisser notre palace, occuper notre place et revendiquer ça que nous avons revendiqué toutes. Merci.
Bonjour. Oui, je vais traiter d'un tout autre sujet, je veux dire. Je suis fatiguée, là. Marie-Joseph a pudiquement parlé de la rupture qui s'est passée en 2003 au niveau de la CLF et sa quasi-disparition des écrans. De la même façon, je pourrais évoquer comment le MLF a aussi disparu à la fin des années 70. Je pourrais aussi évoquer la façon dont le journal Lesbia Magazine s'est dégradé d'année en année pour devenir absolument lamentable ces derniers, pour les derniers numéros. Je pourrais évoquer ce à quoi on a été témoin, l'agression à l'encontre de Christine Ledouaré. Enfin, voilà, ces violences qui sont causées quelquefois par un individu, hein, quelquefois par un petit groupe de pression. Et je pense qu'il faut faire attention de ne pas se... Il faut véritablement savoir résister à ce type d'événements, d'événements brutaux, hein, d'agression véritablement. Bon, et je pense que là, la voie qui est en train d'être choisie actuellement, qui est d'aller vers l'extérieur, de s'ouvrir à l'Europe d'abord, de s'ouvrir au niveau international. Et moi, ça fait des années, je dis que je prêche cela et que j'ai l'impression que c'est un petit peu dans le désert, quoi. Mais ce qu'on peut apprendre au niveau de ces organisations internationales, c'est à la fois la chance que l'on a de vivre là où on vit et comment la solidarité est absolument indispensable avec toutes les femmes et toutes les lesbiennes du monde. Et c'est dans ces organisations internationales qu'on peut, en échangeant déjà autour de nous, dans les pays qui nous entourent, que l'on peut trouver cette force de résister aux tentatives de destruction.
Je voudrais aller tout à fait dans le sens qui est en train d'être pris. Donc il y a déjà eu ici, enfin c'est un peu, l'idée c'était de voir comment on va joindre nos forces et continuer, puisque nous sommes quand même très peu et minoritaires, nous le restons, et voilà. C'est un état de fait extrêmement difficile. Et comment être efficace quand nous-mêmes, nous devons trop faire face à localement, à un tas de problèmes logistiques et politiques, etc., etc. Et nous sommes trop peu nombreux, c'est un état de fait. Et puis c'est aussi comment rendre nos luttes réellement efficaces et représentatives de tous les groupes. Et Sabrine, je vois que tu te lèves. Oui. Ça va? Ah oui, c'est parce que on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir. Et moi, les mails, enfin bon, on est toutes débordées, on est assaillis d'un tas d'informations. Pour moi, c'est un réel problème aussi. Plus on est précaire, moins on a de temps, plus on a accès, moins on a accès aussi aux outils. Moi, j'ai été plusieurs fois dans ma vie sans moyens financiers, donc technologiques. Donc, et ce n'est pas que mon cas. Donc, la proposition que j'avais faite dans l'atelier transmission, c'était un prétexte de prendre cet atelier-là. C'est parce que Marie-Joseph a eu la très bonne idée de m'y impulser, je veux dire presque, de m'arracher de mes projets de reconstruction. De m'investir plutôt que prévu, parce que moi j'avais dit si je me réinvestis, terminer le local. J'ai toujours eu des initiatives internationales mais qui dépendaient du local et ça m'a fortement détruite. Donc voilà, d'autres blanches ne sont pas nécessairement solidaires, évidemment on le sait. J'en ai beaucoup souffert et c'est aussi à cause de leurs trop bons moyens. Je veux dire, il y en a beaucoup qui vivent très plus ou moins confortablement, mais souvent bien. Dans toute communauté, il y a des variations très difficiles. Et moi, ça m'intéresse. Ce qui était d'autant plus insupportable, c'était des lesbiennes qui avaient tant de moyens, tant de privilèges, mais qui ne les partageaient pas. Et quand j'avais ces demandes, moi, je parvenais pas à dire non. Je veux dire, ça m'a épuisée. J'ai eu des burn-out avec toutes les conséquences d'avoir pendant quand même pas mal d'années, ne plus être efficace, donc qui était pour moi aussi très une source d'impuissance qui m'enfonçait vers le bas. Mais bon, nous sommes toutes des humaines. Ici, voilà. Donc prenons l'occasion de regrouper nos moyens avec toutes des idées et stratégiquement, de voir comment dès le départ, chacune, nous soyons présentes et comment nous pouvons assurer ça. Parce que c'est quand on crée une structure, enfin, j'ai employé des mots sociologiques, désolé, mais ce que je veux dire, c'est des groupes, des associations, des fonctionnements, voilà. Je crois que c'est ça un mot qui veut bien dire concrètement. Je crois qu'il est très important que dès le départ, on les donne. Et moi, je pense, et je l'ai toujours fait avec Artemis, par exemple, qui était un projet de vie. Donc, pour moi, ça a été aussi, quand j'ai dû le tuer, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, c'était aussi, j'avais toujours essayé de donner des moyens à toutes. Et sociologiquement, qu'est-ce qu'on constate ? Pour donner une réelle présence et vie à un groupe minoritaire, c'est que ce groupe doit être surreprésenté. Donc, pas juste dire, tiens, il y a autant de pourcentage de... Je vais prendre un exemple très, très réducteur, hein, de, par exemple, noire africaine. Il ne faut pas qu'il y en ait, admettons, enfin, je veux dire n'importe quoi, hein, 10% de, hein, de lesbiennes noires africaines dans une organisation. 10% de représentation, c'est ridicule. Il faut presque leur donner 200%, allez, enfin, un pourcentage tellement plus élevé que ce qu'elles sont réellement, pour qu'un jour, réellement, elles aient une voix. Donc, que ce soit des moyens, que ce soit en nombre, voilà, il faut... C'est un état de fait, une surreprésentation. C'est un des exemples, voilà. Et comment concrétiser ça, tu vois ? Et aussi d'être... et c'est aux efforts aux autres à leur donner les moyens. Je dirais, c'est ça que... Moi, j'étais venue ici, je vais résumer là-dessus, c'est de voir... C'est ça, quand je disais d'un fonds de redistribution... et c'est ce qu'on fait tout le temps. On l'a fait, on le fait spontanément. Ici, je n'ai moi-même pour le moment pas d'entrée financière, mais je me débrouille. Je suis très fort soutenue en Belgique. Mais voilà, je savais que l'organisation avait besoin de payer des lesbiennes qui venaient de très loin, des réfugiés, etc. Donc ça me semblait évident que je n'allais pas demander qu'on me paye mon voyage. Donc je me suis débrouillée localement parce que j'ai plus de privilèges en blanc, c'est évident. Donc, j'ai organisé ça au niveau local ici. J'avais un petit budget, donc il va m'en rester. Je voudrais quand même... Bon, il va m'en rester, tant mieux. On s'est débrouillé de nouveau ici pour avoir un minimum de frais. On donnait un maximum à l'organisation. Donc, je voudrais à la fois donner... Voilà, c'était des exemples concrets de choses d'en redistribuer. Idéalement, un fonds commun qui redistribuera. Bon, on n'est pas encore là. C'est ça que moi, j'aimerais bien qu'on arrive à créer. Donc, ici... Il y aura une partie pour l'organisation, ce que j'aimerais bien le donner à l'organisation qui va le redispatcher très bien à celles qui en ont le plus besoin. Et voilà, donc je me dis, comment est-ce qu'on peut se retrouver et discuter là-dessus sur des moyens qu'on va se donner, des budgets, pour organiser ça. On parle d'un website, est-ce qu'on ne peut pas directement commencer un projet européen ? Idem pour la lutte pour les droits individuels. Peu importe comment on va appeler ça, je vais aller vite. Il y a beaucoup de guillemets dans ce que je dis. Tout de suite, hein, parce que ça a besoin urgent de nous protéger juridiquement et matériellement. C'est aussi un travail juridique. C'est-à-dire nous donner des protections d'exister géographiquement. Voilà. Et aussi, moi j'ai vraiment de nouveau eu des visages sur des noms que je connaissais par des emails, essayer en direct. Est-ce qu'on ne peut pas faire une sorte de mailing collectif? Bon, il y a l'avantage des mails, il y a les blocs et tout. Oui, voilà. Moi, j'aimerais bien aussi... voilà, merci. Voilà, c'est ça que je lance. Et Sabrine, moi, je voudrais aussi... je comprends, c'est ce qu'on fait toutes, c'est il faut rester en autodétermination et il faut garder nos groupes respectifs. Parce que c'est la seule façon de rester visible dans la diversité. Mais comment trouver une stratégie d'opération commune, que ce ne soit pas chaque fois par des mails, c'est-à-dire savoir, par exemple, la prochaine rencontre internationale, comment l'organiser et où, et comment, si certaines ne sont pas présentes, comment permettre ce flux vraiment qu'on doit absolument réussir tout en n'étant pas noyé. Voilà.
Bonjour, je vais juste te répondre, Marianne, là, sur la quantité surnuméraire des LOX. Voilà. On a deux paroles LOX, ça veut dire qu'on est un peu plus que 10% dans la salle. Il y a des copines, donc on peut discuter tout ça. Moi, j'avoue, je n'ai pas très bien compris sur tout ce que tu as dit. Je sais que l'argent est le nerf de la guerre. Moi, si tu veux redistribuer pour les copines LOX, il n'y a pas de souci. Je voulais juste intervenir sur le mariage. Je suis désolée, je suis arrivée un tout petit peu en retard. Nous, au LOX, on a écrit un texte qui s'appelle « Le mariage vers quelle égalité ?» Et en fait, on est peut-être un peu passéiste parce qu'on s'est vachement identifiée aux femmes des années 68, en rediscutant sur le fait du mariage, a été quand même quelque chose de très à droite, et que nous, on rediscutait en fait sur cette notion-là, sur la notion de l'hétérosexualité remise sur les droits des homosexuels. Voilà, nous on a lutté contre cette notion-là de mariage pour éviter que la notion de couple prenne quelque chose de le pas et copie l'hétérosexualité. Nous on veut un tout petit peu dépasser tout ça, revenir par exemple aux discussions qu'ils avaient au phare, qu'ils avaient dans les mouvements 68, dans le mouvement des femmes, rediscuter la notion de couple et tout ça, et être un petit peu plus novateur que de se remettre en couple et de devenir individualiste, quoi. Moi, voilà.
Mais je voulais juste compléter par rapport au mariage. Effectivement, on a pris une position qui était on a apporté notre critique quant à cette notion de mariage, et puis toujours cette espèce de couple mariage égal mariage homo, en l'occurrence égal égalité, ce qui est déjà institutionnellement en contradiction, parce qu'il s'agit quand même d'une essentialisation des liens, d'une institutionnalisation des liens et des relations, et puis en même temps de quelle égalité, de quelle égalité, égalité entre les femmes. On a beau mettre depuis des années, je parle de la France, depuis des années, des espèces, paraît-il, de parité, pour que les femmes soient plus représentées au niveau public, au niveau politique, c'est toujours un échec. Égalité au nom de quoi, alors que les salaires des femmes qui travaillent à même compétence dans les entreprises, dans les sociétés, n'importe où, sont toujours 20%, voire même 23% moins que les salaires des hommes. Quelle égalité quand on sait que la politique d'émigration de la droite, naturellement, mais aussi de la gauche actuellement, est une politique quand même qui est assez défavorable à l'encontre des Roms et à l'encontre des personnes étrangères, pour ne pas dire effectivement les Africains en général, les Africains, les Nord-Africains, puis les Africains subsahariens. Et puis quelle égalité aussi, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récente, c'est qu'il y a quand même 11 nationalités qui sont exclues de ce mariage, ce qui est extrêmement grave et discriminant. Pour avoir travaillé 10 ans dans une organisation de défense des droits humains, notamment Amnesty International, en tant que responsable de campagne, c'est vrai que on a ce genre de disparité comme ça, et même au vu du droit international, c'est discriminant. Ça voudrait dire que le mariage qui est soi-disant pour l'égalité ne sera pas reconnu sur le territoire français concernant les ressortissants de 11 nationalités. Bien évidemment, je vous donne en plein dans le mille, parmi les 11 nationalités figure effectivement toute l'Afrique du Nord. Hors la Mauritanie, mais effectivement toute l'Afrique du Nord, des pays asiatiques, etc. Donc, on peut pas se contenter. Bien évidemment, on va pas mener des actions contre le mouvement qui porte le mariage. C'est un droit légitime. Ça, y a pas de souci. Ce n'est pas notre vision du droit, notre vision de l'accès au droit, notre vision de l'égalité. Il n'empêche, quand il y a effectivement des manifestations pour tous, c'est ça, les manifestations des fachos, des cathos, des intégristes, effectivement, là, bien évidemment, nous, on dénonce et on critique effectivement ces actes-là. Voilà, c'est juste un petit repérage.
J'aimerais juste revenir sur 2-3 petits points. Quand j'entends qu'on est minoritaire, j'ai envie de dire non, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas minoritaires. Absolument pas. Les femmes sont pas minoritaires. Donc, faut arrêter d'être dans cette complainte de minoritaire. Les meilleurs alliés. Alors, les meilleurs ennemis des femmes sont les femmes, les meilleurs amis des femmes sont les femmes. Mais, moi, j'en suis convaincue. Je crois que nos meilleurs alliés sont les femmes, en général. Et, en tout cas, en Suisse, je pense que, dans notre organisation, le meilleur travail qu'on ait pu faire et les meilleurs acquis qu'on ait pu obtenir, c'est en ayant des alliés auprès des femmes. Après, J'ai une autre question aussi par rapport au mariage. Je suis un petit peu étonnée au fait, c'est vrai que ce combat pour le mariage pour tous, pourquoi pas révolutionner le mariage avant de l'instituer pour tout le monde, quoi. C'était peut-être par là qu'il fallait commencer. Ouais. Mais le débat, c'est ça, c'est au fond, on veut un mariage pour tous, comme ça, on est tous à égalité, on peut toujours le prendre ou pas. Ce débat, il va venir en Suisse aussi. Et là aussi, en Suisse, on se pose la même question, on se dit, mais au fond, est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler avec les personnes, avec nos alliés, encore une fois, les femmes, les hommes, hétéros, gays, pas gays, pour révolutionner les choses qui sont plus d'actualité. Si le mariage n'est pas d'actualité, mais qu'au fond, c'est une solution pour beaucoup de personnes, pourquoi pas révolutionner le mariage ? Après, il y a un thème qu'on n'a pas du tout abordé, qui pose un problème et qui, dans le milieu lesbien en tout cas, est très ressenti très fortement, c'est le problème de la génération. Moi, j'ai très souvent l'impression qu'il y a un fossé entre deux générations dans le milieu lesbien. Il y a, ok, les lesbiennes militantes dont je fais partie, qui ont un certain vécu féministe, rejettent beaucoup de choses en disant c'est patriarcat et tout ça. Mais si j'entends les jeunes, aujourd'hui en Suisse, le mariage et l'adoption sont les seuls sujets de préoccupation. Et j'ai l'impression que nous, on l'entend pas, ça. Alors est-ce qu'on doit faire un fossé puis dire, bon, ben, ça nous concerne plus Moi, je trouve que ça, c'est un côté militant, où on doit entendre aussi les personnes qui ont des sujets qui ne sont pas forcément les nôtres, les préoccupations qui ne sont pas forcément les nôtres, mais on doit les entendre. Ça, c'est du militantisme. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces femmes qui finalement reproduisent l'étrange modèle du couple avec les enfants, mais on ne va pas leur dire « ne venez pas ». Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ces femmes-là ? Donc ça, en tout cas pour nous, en Suisse, c'est un débat absolument d'actualité, et on a vraiment à un moment donné, on est à un moment où on est presque en rupture, où on voit vraiment deux générations qui se séparent comme ça, où on a l'impression qu'on n'a plus rien à se dire. Et là, moi, je trouve que là, c'est un grand danger. Si je regarde dans la salle, j'ai pas l'impression que les jeunes sont très représentés. Mais franchement, ce que j'entends chez moi, c'est quand même, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de couper le cordon avec les plus jeunes. Et ça, c'est une chose qui est très grave.
En complément, c'est vrai que cette question du mariage, ça a été le retour. Pour moi, c'est lié avec la montée de la droite et la culture de la famille et de la maternité qui est en train de revenir en plein pot. Et c'est là où se pose le problème aussi des jeunes lesbiennes qui ne sont pas féministes, qui n'ont pas donc cet héritage et ce recul par rapport à ce qu'a produit la famille et la maternité. Mais je voulais revenir, alors je voulais poser une question, moi, parce que je suis un peu utopiste, et moi je pense que effectivement la marge, c'est un espace de liberté, et qu'on n'a pas intérêt du tout à nous faire reconnaître, nous institutionnaliser pour garder des espaces d'expérimentation. Et je me demandais si, en tout cas pour la France, on n'aurait pas intérêt à détourner la loi du mariage. Pour justement, parce que pour moi le mariage, ça a toujours servi qu'à une seule chose intéressante, c'était le mariage blanc. Et donc pour aider donc à l'immigration des exilés. Et je me demandais, donc là, je voulais des précisions de Sabrine sur la question des interdictions de certains pays, parce que moi j'avais cru comprendre que c'était juste les pays qui ne reconnaîtraient pas le mariage homo dans le pays d'origine. Et donc voilà, donc ça on reviendra là-dessus. Mais je me demandais, donc moi j'ai deux choses sur lesquelles j'aimerais débattre. Aujourd'hui, est-ce que même si on se bat, on a compris que l'égalité pouvait être détournée et nous enfermer et nous enferrer dans des questions qui n'ont absolument aucun intérêt pour nous, dont la question du mariage, de la famille et de la maternité. Est-ce que si on veut faire valoir la solidarité et l'autonomie, est-ce qu'on pourrait s'organiser pour détourner le mariage, pour d'un côté permettre le mariage blanc en solidarité avec d'autres lesbiennes qui ont besoin de papiers, et deuxièmement aussi en solidarité intergénérationnelle pour les pensions de reconversion entre les vieilles et les jeunes. Voilà. Et donc ça c'est moi une idée que je trouve qu'on pourrait, mais il faudrait faire ça underground, il faudrait vraiment le penser d'un point de vue politique de façon très subtile. Hein, je dis pas en faire une campagne. Hein, là, c'est vraiment s'approprier un truc pour le détourner vraiment à notre avantage, plutôt que et voilà. Puisque on a quand même des problèmes avec l'économique, on a des problèmes avec les lois, on a des problèmes pour faire reconnaître aussi justement les discriminations que les lesbiennes subissent dans les pays, et que on a besoin aussi de se donner des structures pour renforcer la confiance, et que c'est des formes d'alliance, mais qui pourraient être organisées de façon pas uniquement dans les rapports individuels, hein, je veux dire qui seraient vraiment pensées à ce moment-là, de façon à... Ah oui, et donc il y a une troisième idée aussi qui est, aujourd'hui, on est, je dirais, il y a deux générations qui ont acquis quand même une certaine autonomie financière, qui ont pu travailler, qui se posent la question de savoir à qui elles vont pouvoir donner leur petit appart ou leur, je veux dire, ce qu'elles ont acquis dans la vie aussi. Aujourd'hui, on peut créer, la seule chose qu'on peut faire, c'est de créer un fonds de dotation qui soit pour les lesbiennes, puisqu'autrement, les fondations ne peuvent pas être discriminatoires par rapport à un sexe. Donc, voilà. Et voilà, donc c'est des outils aussi qu'on pourrait utiliser pour faire circuler l'argent entre nous, nous donner des moyens, que ça soit pour la création, que ça soit pour les problèmes de logement, que ça soit pour justement les problèmes d'accueil et de d'installation en France de femmes exilées ou des choses comme ça. Voilà.
Alors sur voilà beaucoup d'idées très riches. Alors sur la question des générations, souvent en fait on trouve une explication immédiate, facile, en disant oui, c'est une question de génération. Et après on s'arrête là. En fait, moi j'étais très, comment dire, enthousiaste, enfin très subjuguée par ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est quand on a mené en séance, il y avait une grande séance à l'intérieur de l'inter-LGBT à propos de la gestation pour autrui. Et quand on a vu qu'en fait, alors tout le monde nous disait, mais vraiment, c'est, vous avez votre histoire, c'est votre histoire, c'est une vieille histoire. Nous, nous sommes jeunes, nous avons une autre histoire. Et donc, nos revendications, notre façon de vivre, c'est pas la même que la vôtre. Ça, c'est ce qu'on nous disait. Donc, sur la GPA, on nous disait, dans la lutte contre la GPA, on nous disait, ça, c'est encore une question de génération. Alors, ça, c'est l'explication fourre-tout. Et quand on a regardé, analysé mot à mot la séance qu'on a eue, où étaient représentées toutes les organisations, grand nombre d'organisations LGBT, représentées par des gays ou par des lesbiennes, ce qui nous a sidérés, c'est que l'axe de partage sur le sujet n'était pas du tout la génération, c'était la conscience politique, c'est-à-dire la connaissance de ce que peut être l'égalité. C'est tout bête, hein. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité ? Aujourd'hui, c'est un mot, au travers de l'égalité des droits, tellement, tellement banalisé, tellement vidé de contenu, que les personnes qui ont eu cette formation politique le savent, les autres ne le savent plus. Et quand on parle, et quand on explique, alors au travers de notre fer de lance qui est les droits propres, quand on explique ce que ça veut dire qu'avoir des droits propres et pas des droits dérivés, et que c'est une question d'autonomie, c'est une question d'indépendance, donc de liberté, là, ça fait écho. Ça, c'est quelque chose qui permet d'expliquer l'égalité, et puis c'est quelque chose qui permet de donner une petite formation politique sur notre système fiscal, social, sur notre système sociétal. Ça, c'est un point d'entrée. Moi, j'ai été aussi bluffée. Un jour, l'association Contact, on avait une séance, et ils nous disent, qui êtes-vous, présentez-vous. Je dis, nous militons pour les droits propres, par opposition à des droits dérivés. Et on me regarde avec deux yeux comme ça. J'explique. J'étais totalement sidérée du manque de culture politique de ces organisations. Et après avoir expliqué, franchement, ça a fait toute une différence. Et je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la différence de génération. C'est une différence de culture, c'est une différence de culture politique. Mais ça, ça se travaille. Hein, ça se travaille. Et aussi, quand on dit on est peu nombreuses, ben, on est totalement puissantes. C'est incroyable tout ce qu'on arrive à faire. On n'a pas besoin d'être des mille et des cents. Pour la solidarité lesbienne, elle fonctionne tout le temps. Elle fonctionne tout le temps. Il suffit qu'elle soit un peu organisée et elle fonctionne. Donc, soyons soyons nous-mêmes, soyons ce qu'on est, et puis on y va. Et on sait que quand on est décidé à y aller, on y arrive. C'est cette puissance et cet élan qui fait que rien ne peut nous arrêter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Je voulais revenir sur deux questions que... Enfin, l'une, c'est sur la question des alliances, parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir cette discussion. Et ensuite, je ferai quelques mots sur les jeunes et les questions de génération dans nos milieux. Je suis vraiment contente, en fait, d'entendre dans ce débat un positionnement tellement clairement féministe, qui est lié, bien sûr, à la décision de travailler en non-mixité, etc. Pour assurer cette... Ce féminisme, il faudrait pouvoir sans cesse évacuer toute misogynie dans nos propos et dans nos pratiques. Mais par contre, je pense pas qu'on puisse être autant optimiste de penser que qu'en tant que lesbienne, on est unis, disons, avec les autres lesbiennes. Hein, un peu comme... Voilà, c'est une version utopique. Mais je pense qu'on n'en est pas là du tout. Ça a été dit, dans le milieu LGBT, les pensées féministes circulent très peu. Et c'est ainsi, par exemple, qu'il y a des associations, à mon avis, en bonne partie par manque de formation politique féministe, qui, par exemple, réutilisent le terme de sexiste. Donc, ils disent on lutte contre le sexisme, mais en fait, dans leur bouche, ça veut dire le fait d'être conditionné à un genre. Donc, il y a du sexisme contre les hommes, il y a du sexisme en particulier contre les garçons gays, etc. Et donc, on a une circulation de concepts qui sont en même temps complètement redigérés et complètement vidés de... d'une analyse de classe de sexe, de domination masculine, d'oppression des femmes, etc. Et donc, il y a sans doute un enjeu à, comme tu disais, Marie-Joseph, à y aller et à faire cette pédagogie-là, parce que c'est pas magique, quoi. Et puis, on peut se dire féministe, s'il n'y a rien derrière en termes de fond, c'est pas... Mais la question des alliances et d'autres milieux militants proches, c'est pas que les LGBT, c'est aussi ceux qui s'appellent les transpédéguines, qui sont aussi qui s'inscrivent contre le mainstream LGBT, hein, et on le voit bien ici puisqu'on a l'Europride, la Lesbo Pride qui s'inscrit en contre, et puis l'Eurocrade qui s'inscrit en contre des deux événements. Et là-dessus, c'est plus compliqué. On a vu qu'il y avait eu une intervention de l'Eurocrade avant-hier qui était assez violente et qui nous pose question. Alors là, peut-être je peux parler pour moi, mais en fait, il y a des copines à Paris avec lesquelles qu'on connaît, en fait. Et donc, c'est pas spécialement nouveau. Au contraire, c'est un peu un épisode qu'on joue et qu'on rejoue depuis quelques années. Par exemple, aux manifestations féministes, où bien sûr, en tant que lesbienne, on participe massivement, où on a sans cesse des points fixes, notamment sur la question de la prostitution, du travail, du sexe, etc. Donc, on se retrouve en contre. On a aussi des histoires d'alliances récentes. À Paris, par exemple, il y a 2 ans, on avait créé cette Assemblée Générale Féministe, qui ensuite est devenue l'Assemblée Générale Féministe et Lesbienne, après un processus interne, qui était en fait une AG qui se réunissait toutes les 2 semaines autour de la question de l'impunité des violences masculines. C'était autour de l'affaire DSK, le fait qu'il ne soit pas jugé par la justice américaine, etc. Et là, il y avait des alliances avec des courants différents, et y compris des lesbiennes qui s'investissent dans des milieux mixtes, notamment transpédéguines. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a d'autres questions qui se posent, et notamment par rapport à la période politique dans laquelle qu'on traverse, qui est quand même vraiment agitée, vraiment violente. On a eu en France ces manifs pour tous... qui nous ont attaqués, qui nous attaquent en tant que lesbiennes en premier lieu. Enfin, je veux dire, je ne sais pas dans vos vies, mais enfin, les agressions ont augmenté. On sent qu'il y a une violence qui est beaucoup plus lâchée. Et en fait, c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai au niveau des agressions physiques ou verbales qu'on peut subir au jour le jour. Mais c'est vrai au niveau de cette poussée idéologique rétrograde. Qui mêle en fait toute l'extrême droite, que ce soit contre les homosexuels, contre les Roms, les personnes racisées en général, les immigrés, enfin, et c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe, que ce soit du point de vue des partis politiques qui ont plus ou moins de pouvoir entre le Front National, l'UMP qui joue le jeu et le Parti Socialiste qui joue pas le jeu mais qui au pouvoir mène le même genre de politique. Et puis les groupuscules fascistes qui sont quand même en réorganisation et en train de prendre du poids politique et en tout cas on a l'impression qu'ils sont plus efficaces, etc. quoi. Et là-dessus, on a commencé à discuter de nouvelles alliances, en tout cas à Paris, sur comment on va, en tant que féministe, en tant que lesbienne, réagir par rapport à ça. Et là, je pense qu'il y a vraiment des questions qui se posent sur quelles sont les limites et les garde-folles à nos alliances, quoi. Qu'est-ce qui nous rassemble suffisamment pour lutter ensemble et comment on perd papier aussi dans des alliances, quoi. Je voulais juste dire une autre chose sur la question des jeunes. Moi, dans un autre cadre, c'est-à-dire plutôt en tant que jeune féministe, j'ai pu, avec d'autres, essayer d'ouvrir des lieux de jeunes féministes d'Europe, notamment avec la Marche mondiale des femmes. Et on fait des campements de jeunes féministes tous les ans depuis 2-3 ans. On essaye, en tout cas. Et je pense que déjà, il ne faut pas nier les jeunes qui sont là. C'est-à-dire que quand on est là et quand on essaye d'agir dans un courant politique, on est là et on peut pas dire il n'y a pas de jeunes, quoi. Enfin, et nous alors. Enfin, voilà. Premièrement. Et deuxièmement, moi, il me semble que c'est une question qui est éminemment politique. C'est-à-dire, quand on est jeune, on découvre des pensées politiques, des pensées et des pratiques. Et ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement à la limite toute la vie. Et heureusement, on peut changer, on peut évoluer, etc. Mais en particulier quand on est jeune. La question des premières rencontres militantes qu'on fait, la question des espaces auxquels on accède pour pouvoir se socialiser en tant que lesbienne, en tant que lesbienne politique, en tant que féministe, c'est hyper important. Et aujourd'hui, souvent on nous rejoue l'opposition entre les vieilles ou les plus âgées et les jeunes, mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir ensemble à comment on prend en charge la venue Et la plus massive possible, parce qu'on a, si on se sent d'un courant politique, on a intérêt à le renforcer et à être nombreuses et à se former et à y faire circuler nos analyses. Quels espaces on se donne pour accueillir ces jeunes femmes, ces jeunes lesbiennes ou ces nouvelles arrivantes dans nos milieux, quoi. Et là-dessus, enfin, je pense qu'on peut évoluer en politisant vraiment cette question-là, quoi. Merci.
Oui, très très brièvement, pour juste revenir sur l'histoire du mariage. Alors qu'on soit pour ou contre, là c'est pas ce que je voulais dire. On a une amie lesbienne qui est venue il y a à peu près 2 ans, qui voulait faire venir sa compagne d'Indonésie. Bon, inutile de dire ce qui se passe en Indonésie avec les LGBTI.
Comme partout, je crois.
Absolument. Et en fait, pas moyen, déjà, donc pour la sécurité de sa compagne qui est arrivée en France, pas moyen elle ne pouvait pas se paxer. Il manquait toujours quelque chose. On a fait intervenir tous les élus qu'on pouvait, sans succès. Eh bien, figurez-vous que ce mariage, ça a tout arrangé parce qu'elle était sous OQTF, donc elle était obligée de quitter le territoire. Voilà, c'est ce qu'on disait hier. Donc on était là en train de les surveiller parce qu'elles ne pouvaient pas sortir. La moindre sortie, ça pouvait être la rafle. Eh bien, ce mariage, ça a réglé l'histoire il y a 15 jours. Et ce n'est pas du tout un mariage arrangé, c'est une véritable histoire d'amour. Alors il y a aussi ces belles victoires-là et je crois qu'il faut aussi les dire. Merci.
Non, non, le PAC, c'est très restrictif en termes d'émigration, effectivement, du pays d'origine. Effectivement, tu as raison.
Excusez-moi de changer un peu de sujet, parce que je voulais intervenir après ce que disait Marianne. J'oublie pourquoi presque, mais c'était une question d'ouverture, je pense, à l'extérieur. Et quand j'entends Marie-Joseph qui dit qu'on est là, on est lesbienne, on est forte quand on veut le faire. Et le problème, c'est qu'on se laisse... on est à la remorque des LGBT, etc. Et je voudrais bien qu'on se démarque de ce mouvement-là et qu'on soit lesbienne comme on a fait hier notre marche à nous, et c'est-à-dire que quand on a des réunions comme ça, c'est très bien, on est ensemble, on fait notre truc, mais il faut qu'il y ait, je ne sais pas quoi, communiqué de presse, il faut que ça sache que les lesbiennes se rencontrent seules tout le temps, et donc ça n'empêche pas des alliances ponctuelles avec LGBT ou n'importe, etc., etc. Mais nous, il faut qu'on existe en tant que lesbiennes et à part tous ces mouvements qui s'appellent autrement. Quoi que ce soit, lesbiennes, c'est nous. Il faut que ça se sache dans le mainstream, quoi. Et avec des communiqués de presse, avec des positions. Parce que maintenant, ça circule entre nous, c'est très bien. Mais il faut quand même qu'on sache ailleurs que chez nous qu'on existe. Voilà.
Alors, au risque d'être très conventionnelle, je le suis peut-être un petit peu, je reste convaincue aussi qu'il y a une chose très importante, c'est la politique. Même si les choses nous déplaisent, le seul moyen, en tout cas à mon avis, mais dans certains pays c'est peut-être plus facile qu'ailleurs, je ne sais pas, le seul moyen de faire changer les choses, c'est de ne pas se tenir à l'extérieur de ce qui se passe, de ce qui bouge, de ce qui change, mais d'être à l'intérieur et de participer. Oui, alors peut-être qu'il faut les deux, c'est vrai. Alors moi je vais faire partie de ces gens un peu conventionnels et je vais aller dans le système, et quitte à déranger perpétuellement, mais je préfère être dans le système qu'à l'extérieur en disant ça va pas, c'est pas comme ça. Et là aussi, les femmes doivent absolument plus s'engager, les femmes doivent se montrer, elles doivent être un peu plus... Des fois, moi je trouve qu'elles manquent un tout petit peu de courage, mais peut-être que je parle plus de chez moi, peut-être que les Françaises, possible, sont plus militantes, ou les femmes en France sont plus militantes, les Suisses sont peut-être un petit peu timides. Mais ça, la politique pour moi, c'est un des points les plus importants, c'est intégrer. Je voulais juste dire un mot d'une association qui vient de se créer en Suisse, et ça aussi c'est quelque chose de très important, c'est un réseau professionnel. Et là aussi, les femmes, on ne sait pas se réseauter. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on doit apprendre, être un tout petit peu plus offensive, agressive. Et cette association qui vient de se créer en Suisse a un succès assez phénoménal. En très peu de mois, elle a regroupé un très grand nombre de femmes. Et ça aussi, c'est une voie. Ça aussi, c'est un chemin, si on n'est peut-être pas militante politique vraiment, mais en tout cas de se réseauter avec d'autres femmes et d'unir nos forces, d'unir nos capacités, nos performances, nos compétences. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est des alliés importants aussi.
Oui, merci beaucoup. Alors, je voulais rebondir sur trois remarques. Donc, en ce qui concerne la question de génération, je ne pense pas que ça soit un problème, franchement, de génération, en tout cas au sens âge du terme, mais plutôt un problème de transmission, en fait. Je pense que le mouvement MLF, sans pouvoir effectivement le généraliser ou le diaboliser, je pense a échoué dans la transmission, déjà avec d'autres femmes issues d'autres tendances politiques, effectivement féministes, etc., tout comme la coordination des femmes noires, tout comme la coordination des femmes d'Afrique du Nord, etc., mais aussi a échoué au niveau de l'impact de l'histoire et de la mémoire des jeunes lesbiennes, aussi bien d'origine française que d'origine émigrée. Je pense que c'est une question de transmission. À l'Ox, les membres de l'Ox, j'entends les membres actifs de l'Ox, il y a de tous les âges. Les nouvelles arrivantes sont des arrivantes jeunes et qui sont tout autant radicales que les anciennes membres, ou en tout cas les fondatrices du groupe, etc. Et ça voudrait dire que ces jeunes-là ont eu dans le milieu non mixte, et en particulier dans le milieu non mixte féministo-lesbien, pour ne pas dire lesbien politique, des réponses, et par conséquent on a effectivement une vision, par exemple sur leur mariage, complètement unanime. Alors, sur la question justement du mariage, encore une fois, ce n'est pas parce que nous avons une position politique, puisque encore une fois nous nous définissons comme lesbiennes politiques, c'est-à-dire nous nous définissons comme dissidente au régime hétérosocial, au régime hétéropatriarcal, puisque c'est un régime qui perpétue les violences faites aux femmes, les violences faites aux minorités, etc., etc. Et que par conséquent, tant qu'il n'y a pas abolition des privilèges des hommes et tant qu'il n'y a pas abolition des violences faites aux femmes, bien évidemment, cette dissidence restera nos valeurs. Cela dit, effectivement, dans le cadre du droit d'asile, où on appelle ça plutôt de la régularisation au séjour, il y va de fait que le mariage va être une des stratégies. Je ne souhaite pas honnêtement développer, j'ai toujours refusé de développer les stratégies mises en place pour soutenir les femmes demandeuses d'asile, les femmes, les lesbiennes, les féministes demandeuses d'asile, puisque on préfère faire ça plutôt en atelier de travail plus restreint et plus sécurisé. Mais effectivement, ça va être... Et on sera amené, bien évidemment, à mettre en place des stratégies, soit effectivement par le pacte, soit par le mariage. Mais voilà. En ce qui concerne le ROCRAD, effectivement, la camarade qui a parlé de Clara, tu as parlé de l'Eurocrad qui est venu donc ici en force, effectivement, violent, etc. Et tout. Peut-être juste une mise au point. À l'Ox, effectivement, on est activiste, on est visible, mais on reconnaît quand effectivement il y a un activisme de d'autres personnes, d'autres individus avec lesquels on n'est pas particulièrement d'accord, mais quand c'est fait honnêtement, quand c'est fait sincèrement, on aime bien le dire aussi. Et là, je ne me fais pas porte-parole du TPG ou de l'Eurocrad du TPG de Marseille. Simplement, il faut quand même, pour avoir parlé longuement avec eux, avec elles, et parce qu'on a certains individus alliés dans ce TPG de Marseille, l'action qui a eu lieu n'a à aucun moment été une action de trashage contre un débat sur la non-mixité et encore moins une action de trashage sur la non-mixité de Lesbo Pride et encore moins sur effectivement Lesbo Pride. Cela dit, c'est problématique et d'un point de vue alliance, mais ça a été effectivement dit et c'est vrai qu'il et elle regrettent particulièrement pour avoir encore parlé avec eux, échangé avec eux et elle hier, il et elle regrettent particulièrement cette action qu'ils ont menée au niveau de l'intervention de Christine Ledouaré. En ce qui concerne les alliances, c'est vrai que j'ai insisté sur le terme ponctualité, non pas pour son aspect temporel, mais aussi, comme je vous l'avais dit, pour son aspect organisationnel de moyens. Mais aussi, à un moment donné, pour son aspect réaliste. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on soit aussi dans une démarche de concession. Mais encore une fois, pas au détriment de nos valeurs en tant que lesbiennes politiques, en termes notamment de non-mixité, en termes de lutte contre le sexisme, en termes de lutte contre la LGBT-phobie, en termes de lutte contre les racismes, je le mets au S, bien évidemment. Pour exemple, dans le cadre de la lutte contre le fascisme, en tout cas dans le cadre de la mobilisation contre le fascisme qui a eu lieu actuellement depuis la mort de Clément, mais aussi depuis le ciblage des femmes voilées, en tout cas l'agression systématique de femmes voilées, notamment celle d'Argenteuil. C'est vrai que l'Ox participe à une mobilisation avec d'autres féministes. Clara en a un petit peu parlé, avec d'autres féministes, d'autres lesbiennes, même si nous savons que certaines, dans leur structure, dans leur groupe, portent par exemple des thèmes qui sont à l'opposé de notre valeur, à savoir, un exemple, il y en a d'autres, mais à savoir la pro-prostitution. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit qu'il y avait une urgence, à savoir cette montée du fascisme, ce retour, voire cette évolution de l'extrême droite, qu'il y avait là une parole située, une parole de féministe, une parole de lesbienne, une parole, une pratique en tout cas militante, qui devait faire face au fascisme, et qu'on devait mettre de côté effectivement ces dissensions, ces thèmes un petit peu qui nous opposent, et trouvant plutôt la force des convergences pour cibler un ennemi principal qui est effectivement le fascisme.
Alors, j'ai oublié de dire dans les interventions, on se connaît, on est nombreux à se connaître. Il y en a qui ne, qu'on ne connaît pas, donc juste donnez votre nom avant d'intervenir.
Bonjour. Je vais m'exprimer en anglais. Je ne sais pas si tout le monde a des écouteurs et tout, mais bon. I'm very happy to have discovered LOX, this organization, and enfin, that I know through someone in Switzerland. That is in Paris. I'm happy because there's not been a visible organization of women of color, of lesbians of color in our community, and the topic has been often not considered, and also this the issue of ageism. And the difference of the difference between the communities. A part of the difference is, as I think it's Marie-Joseph has mentioned, is that there's not a transmission, but also there's not a way of the cerner. There has not been an attempt to be really political. Political. There's the idea of politics often turns a lot of women off. As soon as you say something political, that something is political. Oh, everything we do, every choice we make is political choice. And when we are unaware of this, when we're not aware of it, when it's not a central thing, then we don't realize that just exactly the separation between the ages is a political choice, so that the transmission is not made, so that the things that have been experienced are not shared, so that the struggle, I'm sorry, I'm between French and English because I live in Paris, the struggle is not considered. And to bring this together is that as someone of color, I was often in political groups where there were not women of color. And it was distressing for me because distressing. It was something that preoccupied me because it was not the reality of what I was living or what many lesbians were living, and that it played a part in the community where, for example, in France, in Paris, in Geneva, aux États-Unis, in the United States, from where I come. That this was also a part of our struggle, how we could live together, how we could see things together and understand our differences, understand that some of us are privileged and that we don't realize that our privileges distance us from those people in front of us, so that instead of having an alliance, instead of having partners, we move away from each other. So that the communities are separate. We don't know what's happening in the community. There are lesbians of color who are very political, but they are not necessarily integrated in a larger community, which is presumed white or non, white. Voilà. So voilà. And to that point, I wanted to say I was very happy to see that this group LOX exists, and that you are so political and so generous, and bravo. Voilà.
Oui, je pense que c'est bien qu'on puisse se présenter parce que plusieurs d'entre vous ne sont pas connus des autres femmes, et même peut-être éventuellement de citer l'association avec laquelle vous travaillez, c'est bien aussi parce que après on peut venir discuter avec vous pour continuer le débat, ça peut être intéressant. C'est à ce niveau-là, quoi. Moi je m'appelle Catherine, la fameuse Catherine dont a parlé Marie-Joseph tout à l'heure, et qui n'a pas organisé grand-chose puisque j'étais malade toute la semaine dernière. À l'inverse de Marie-Joseph qui a mis toute son énergie dans cette rencontre, et tant mieux parce que c'est un sacré succès. Et évidemment, je vais dans le sens de Marie-Joseph. Oui, les lesbiennes existent. Oui, on est toujours aussi fortes. Oui, on est toujours aussi intelligentes. On est toujours aussi formidables. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, on n'est pas parfaites. C'est vrai que parmi les lesbiennes, eh bien, parfois on a des déceptions de copines parmi les féministes. Moi, j'ai vu des comportements, j'entends parfois des propos qui sont inacceptables et que je ne laisse pas passer, bien évidemment. Autant que j'ai pu en entendre à l'inter-LGBT, puisque pendant des années, j'étais à l'inter-LGBT et je faisais tout le temps le contre-courant pour que la parole des lesbiennes existe, pour que le mot lesbophobie apparaisse, contre le, que, essayer de faire passer que la GPA ne devienne pas une position officielle de l'inter-LGBT, comme l'a expliqué Marie-Joseph, parce qu'on a eu plusieurs débats, et dont un très très hard, où Marie-Joseph, j'avais demandé à Marie-Joseph de venir, parce que là, j'avais vraiment besoin de soutien, j'en pouvais plus. Mais je pense que rien n'est parfait. Il n'y a pas de recette, on sait bien. Et la question des alliances ou la question des partenariats, comme tu le disais tout à l'heure, Sabrine, c'est une question d'affinité, une question d'accord avec soi-même. Il y a des moments, moi quand j'allais à l'inter-LGBT, franchement, il y a des moments j'étais bien, j'étais super remontée quand j'allais au conseil. Et je peux même vous dire que parfois, il y avait des femmes qui prenaient la parole, qui ne parlaient qu'au masculin, qui ne parlaient pas de lesbophobie ni voire de lesbienne, mais simplement de femmes homosexuelles. Et c'était des hommes, des copains gays, qui, eux, reprenaient la parole en parlant de lesbienne et lesbophobie. C'était quand même un comble. Mais ça aussi, ça existe. Il faut le savoir aussi. Je défends pas les gays. Attention, hein, je suis pas là, je fais pas de la... Non, non, je sais, je suis extrêmement lucide. Je sais que pour la plupart du temps, c'est aussi du paternalisme. Et croyez-moi que j'en ai poussé des gueulantes à chaque fois dans les conseils parce qu'il fallait bien remettre les choses en place et que leur paternalisme, j'en avais parfois assez ras-le-bol. Donc je pense qu'il y a des affinités. Alors par moment, on a envie de travailler et de faire des choses avec tel groupe, qu'il soit gay, qu'il soit pour, contre le voile, parce qu'à ce moment-là, voilà, on a un thème en commun, il faut lutter contre le fascisme, il faut lutter contre les essais nucléaires, je prends cet exemple parce que bon, ça m'est arrivé. Et voilà, et moi j'étais avec des groupes, parfois j'entendais des questions, des réflexions lesbophobes, homophobes, que je laissais pas évidemment passer, et c'était des groupes pour l'éducation à la paix, contre les essais nucléaires, antimilitaristes. Et là aussi, une fois de plus, j'entendais encore des choses qui me déplaisaient. Et vice-versa, vous voyez. Donc je crois que personne n'est parfait, que partout il y a des couacs, et que les alliances, on ne peut pas dire c'est mieux l'intérieur, c'est mieux l'extérieur, c'est mieux et c'est bien à l'intérieur, c'est mieux et c'est bien à l'extérieur, c'est bien partout. Quoi qu'on fasse, à partir du moment où on est convaincu qu'on a vraiment envie d'arriver, qu'on a vraiment envie que les lesbiennes existent et soient visibles, je pense que ça soit l'intérieur ou l'extérieur, je pense qu'il n'y a vraiment pas de questions à se poser, comme le disait Marie-Joseph, il faut y aller. Et puis voilà, et que tout ensemble, les résultats, ils sont là, qu'on soit à l'intérieur, qu'on soit à l'extérieur, les résultats, de toute façon, ils sont là, aujourd'hui, ils sont bien, parce que, comme on le disait la camarade tout à l'heure, la partie mixte, elle est en train de, vulgairement parlant, foirer, et ce qui ne m'étonne pas, parce que eux, ils sont très habitués à être soutenus, je vois bien l'inter-LGBT, c'est tous les réseaux gays, tous les réseaux mecs, hein, qui sont friqués, et vas-y que je te paye les t-shirts, et vas-y que je te paye ceci, et vas-y que je te donne cela. Donc ils ont l'habitude de cette solidarité, entre guillemets, qui est pas très profonde, parce que c'est une solidarité surtout financière, mais qui aide pas mal à montrer surtout les choses, le podium, ceci, cela, les choses grandioses, ça leur plaît beaucoup. Mais nous, à la limite, on s'en fout. Parce que, par exemple, à la fin de la marche des fiertés, avec la coordination lesbienne, lesbias et QFD Fierté Lesbienne, on organisait une grande fête. Et pourtant, on arrosait les médias. On arrosait, mais vraiment, tous les médias de cette fête lesbienne qu'on faisait à Wagram. Et aucun média ne relayait la formation. Eh bien, tous les ans, il y avait 2000 femmes, je dis 2000 femmes parce que c'était essentiellement des lesbiennes, mais des copines hétéros qui venaient parce qu'elles avaient envie d'être avec nous et elles venaient par solidarité puisque le fonds financier, l'excédent permet de payer des procès pour les femmes qui sont victimes de lesbophobie et qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas payer les frais d'avocat. Et pendant 10 ans, on a fonctionné à plein, 2000 femmes venaient alors qu'aucun média ne relayait l'information. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une force entre nous de transmission des choses et tout. Et ça, faut vraiment y croire parce que je vous assure qu'elle existe. Voilà.
Je voulais simplement rappeler que la coordination lesbienne en France
est la seule coordination de lesbiennes qui adhère au lobby européen des femmes. Et je trouve que c'est quand même dommage. Le lobby européen des femmes représente 2000 associations en Europe. Donc, allez dans vos propres pays, allez fouiner, allez voir quelles sont les associations, ou s'il y a une coordination pour ce lobby européen des femmes, si c'est sympa ou pas, etc. Mais essayez de rentrer là-dedans, c'est un relais formidable. Hein. Et ne pas oublier que pendant 2 ans, c'est une lesbienne qui a été présidente du lobby européen des femmes. Elle ne l'est plus pour des raisons de santé, c'est une femme extraordinaire, c'est une néerlandaise. Et quand on se rencontrait dans des rencontres européennes, nous on buvait du champagne rose et on achetait du champagne blanc pour les hétéros, quoi. Bon, c'était, mais je vous assure, c'est sympa, ouais, elles sont très accueillantes, c'est un relais formidable. Et bon, je voudrais simplement faire une annonce, si ça vous intéresse. J'ai, je ne dirais pas l'honneur, mais il se trouve que j'habite dans une petite ville où Madame Boutin, bien connue des Françaises, a sa maison, et vient tous les étés avec son mari, cousin, et puis...
Madame Boutin est vraiment la représentante de l'extrême droite la plus intégriste qu'il
absolument
soit.
Absolument. Alors si vous aviez un message pour elle que je pourrais glisser dans sa boîte aux lettres, quelque chose un peu humoristique, bon... Je l'ai déjà fait une fois. Je lui avais envoyé un message, je ne sais pas, je pense que je vous l'avais transmis. J'avais signé Les Dames du Lac et c'était Lesbienne au Croisic. J'avais laissé mon numéro de téléphone, elle ne m'a jamais rappelé. Mais je crois que je vous l'ai envoyé. C'était, bon. Alors, d'ici la fin de cette semaine, si vous trouvez un petit message marrant, je me ferai un plaisir de lui transmettre. Alors, je m'appelle Evelyne Roche-Dereux de l'association Cybelle.
Je voudrais juste revenir, je reprends la parole, mais je voulais revenir sur deux choses encore, la question des jeunes et celle des alliances. Sur la question des jeunes, c'est un sujet sur lequel moi j'ai beaucoup réfléchi, avec d'autres, etc. Tout à l'heure, j'ai exprimé l'idée qu'il y avait un enjeu autour de transmettre des choses d'un courant politique, et que ça, c'était à mon avis quelque chose dont il fallait toutes se sentir responsables, en fait. Mais il y a d'autres idées en fait par rapport à la question des jeunes, et une notamment c'est cette idée que, à mon avis en tout cas, les jeunes femmes ont un vécu spécifique, que grandir, naître et grandir à une époque donnée, ça fait appréhender la réalité et le monde extérieur d'une façon différente que de grandir à une autre époque historique, et que si on s'intéresse, si on dit que pour analyser l'oppression des femmes, l'oppression des lesbiennes, etc., il nous faut la voix des différentes réalités vécues par les différentes femmes. Alors, la question des jeunes, c'est pas seulement la continuité et la transmission, c'est aussi quelle analyse on peut faire si on se passe de connaître le vécu des jeunes femmes. Et donc, à mon avis, c'est comme quand il n'y a pas de femmes racisées ou de femmes noires qui parlent. Il y a un problème de qu'est-ce qu'on connaît avec chacune nos réalités. Pour faire une analyse du monde, il nous faut accéder à la réalité des différentes femmes, en l'occurrence. Et alors, on a besoin aussi de connaître le vécu des jeunes femmes. Et moi, l'analyse que je fais de la période actuelle, c'est celle d'une grande violence, en fait, d'une réappropriation du corps des femmes, d'une culture du viol, par exemple, de toutes les représentations, que ce soit le développement de la pornographie, la prostitution, ça va avec. C'est l'analyse que je fais à la position où je suis, mais il me semble qu'il y a un backlash, ça a été dit, et que grandir dans cette période-là, c'est pas neutre. Ça change quelque chose sur nos analyses politiques. Que donc, il y a un enjeu à échanger et à transmettre. Et la transmission, c'est pas que dans un sens, en fait. On a besoin de transmission entre nous dans tous les sens, et y compris de jeunes femmes qui peut-être sont pas super socialisées aux féministes, ont pas lu Wittig, Delphi et tout le monde, et qui souvent dans le milieu féministe, peut-être aussi lesbien, se font rembarrer parce que justement elles ont pas lu les classiques. Et là-dessus, bon. Et du coup, pour répondre à ce que tu disais, il peut y avoir aussi des espaces de non-mixité de jeunes. En tout cas, moi je pense que c'est nécessaire. pour élaborer une analyse commune et pour se sentir suffisamment en confiance éventuellement pour porter des analyses qu'on aura à partager avec d'autres plus semblables. Et il n'y a pas une opposition et il n'y a pas une guerre quand à un moment donné les LOGs disent nous on se réunit entre lesbiennes of color parce qu'on a besoin de cet espace-là, ces analyses-là, et que c'est comme ça qu'on va pouvoir agir aussi collectivement par le biais d'alliances. Et de la même manière, la question de la génération, parce qu'elle est souvent prise comme ça, moi, pour avoir fait l'expérience de créer avec d'autres des espaces de jeunes autonomes, c'est très mal pris, souvent. Et en fait, je pense que c'est dommage. Enfin, c'est vraiment se couper l'herbe sur le pré aussi que se dire on se divise. Ben non, on se divise pas. C'est juste un moment donné, quoi. Et je aussi, par rapport à ce que Chantal disait, il y a besoin de solidarité dans tous les sens, sur les questions de classe et sur les questions de génération aussi. Et donc, il faut qu'on soit créative là-dessus, et on l'est, et on continuera à l'être, sur comment on développe ces solidarités-là, notamment parce qu'il y a énormément de précarité et de pauvreté, et que ça ne va pas s'arranger du tout. Et que du coup, ça ne va pas d'être... Et du coup, ça va avec la question des alliances. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter, en particulier avec les LOGs, sur cette question de cet espace antifasciste qui se crée pour... à quel moment on dit stop aussi aux alliances? Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est... là, on a eu droit à un ciblage d'une d'entre nous. Et alors, c'est qui le nous? Et alors, mais est-ce qu'on peut accepter aussi, à un moment donné, de s'en prendre à une Et du coup d'être dans une attaque contre voilà. Bon, je pense que moi j'ai envie qu'on rediscute, y compris dans nos entre guillemets plus petits milieux, de ces questions-là et des limites qu'on met à nos alliances. Mais juste, c'est en lien. Pourquoi on a des affinités avec ces lesbiennes, ces jeunes femmes? Je veux dire, il y a beaucoup d'analyses sur lesquelles on diverge, mais il y a aussi des analyses sur lesquelles on converge. Et notamment sur la question de l'anticapitalisme, ou sur la question du classisme, c'est-à-dire, ou sur la question de la répartition du pouvoir, de la circulation de la parole. Personne n'est idéal et parfait, hein, et c'est toujours compliqué, et c'est toujours un processus d'arriver à fonctionner le mieux possible. Mais par exemple, tout à l'heure j'ai parlé des assemblées générales, féministes et lesbiennes, feu, parce qu'elles n'existent plus, cet espace-là n'existe plus, mais... on y a tenté et on est nombreuses à y avoir appris des choses. Une assemblée générale fonctionner en autogestion, c'est quelque chose qui est intéressant. Et eux et ils fonctionnent. Elles et ils fonctionnent en autogestion. C'est-à-dire, ils font des AG tous les jours. Évidemment, ça prend du temps, etc. Mais ça, c'est des pratiques qui intéressent aussi un certain nombre d'entre nous. Il y a eu, je crois, une intervention sur le fait d'avoir un concert à 15 euros. Et en fait, celles qui ne peuvent pas payer 15 euros, elles ne sont pas venues, il y en a eu le moins possible. Mais ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose aussi entre nous ici. C'est-à-dire quelle réflexion aussi on a sur qui a sa place dans nos milieux ici. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi de... pas d'unir des pensées, mais d'entendre aussi ce qui peut plaire et ce qui peut séduire dans leurs espaces politiques, même si sur les questions, sur de nombreuses questions liées au féminisme et aux femmes et aux lesbiennes, on diverge.
Je voulais revenir sur deux points. Effectivement, j'avais été interpellée sur la précision par rapport aux 11 nationalités. Je te prie de m'excuser, j'ai zappé. La France a ce qu'on appelle des accords bilatéraux avec tous les pays, dans lesquels il y a un certain nombre d'alinéas entre ces deux pays, d'accords, en tout cas sur telle et telle législation, sur telle et telle thématique, et qui, ces accords bilatéraux, sont censés apporter une espèce de consensus, etc. Ce que nous avons découvert, puisque effectivement la chance qu'on a dans le groupe LOX, c'est qu'on a des personnes issues aussi bien des lesbiennes, bien évidemment, issues de l'Afrique subsaharienne comme de l'Afrique du Nord. Donc du coup, ce qu'on a remarqué, c'est que la France, en fait, n'a pas prévenu les pays qui sont concernés par les 11 nationalités comme quoi elle allait prendre
cette décision d'exclure du mariage ces ressortissants-là. Et et pour preuve, par exemple, l'ambassade d'Algérie, l'ambassade de Maroc, peut-être même de la Tunisie, ont eu l'agréable surprise, on va dire, de découvrir comme ça dans les médias que les ressortissants étaient effectivement exclus du mariage. Voilà. Donc ça voudrait dire que c'est une décision unilatérale, voire néocoloniale, bien évidemment, de la France. Et pour preuve, c'est que mon pays, je sais que mon pays, donc Djibouti, Afrique de l'Est, a refusé effectivement la reconnaissance du mariage pour tous. Je le sais de source sûre, puisqu'on est obligé de signer, enfin voilà, d'aller à chaque fois au consulat, puisqu'on est et il ne figure pas dans la liste. Voilà. Donc là aussi, il faut se poser certaines questions. Probablement un jeu de la part, tout comme l'Afrique subsaharienne n'est pas dans la liste de ces ressortissants. Le deuxième petit, voilà ce que je pouvais dire sur ces pays-là. La deuxième et d'ailleurs lors de l'inter LGBT, la fameuse Pride. Donc la dernière Pride de juin, l'inter LGBT n'a pas porté un intérêt particulier sur la question des 11 nationalités. Or, elle est censée quand même porter, soi-disant, un mariage pour tous, donc égalité. Pour la deuxième, un petit rajout par rapport effectivement à tout ce qui est transmission, génération, etc. et tout. Moi, j'ai dit que c'était plus un problème de transmission. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne suffit pas d'avoir une formation politique. Moi, je connais des lesbiennes qui sont jeunes, qui sont dans des partis politiques dits progressistes, que ce soit de gauche ou que ce soit des partis verts, comme on dit, et qui ont donc une formation, pour ne pas dire une prise de conscience politique. Et ces partis-là, par exemple, sont pro-prostitution ou alors sont pour une espèce de fluidité comme ça. Voilà, donc je pense que c'est au-delà de la formation politique, d'autant que sur ces questions-là, il y a aussi le rôle des médias à ne pas nier, puisque les médias contribuent énormément, et pour preuve, juste le journal Libération, Le Monde s'oriente aussi, mais Libération, c'est vraiment flagrant, et qui vont porter plus des questions queer,
mainstream,
et mainstream, et du coup, effectivement, ça répond à des collectifs dans lesquels se retrouvent des collectifs comme par exemple Gmine comme un camion, les collectifs Oui Oui, et j'en passe.
Voilà, nous sommes arrivés presque au terme de cette séance. Nous avons dépassé le planning d'une demi-heure, mais tant mieux. Je voudrais dire, alors il y a encore plusieurs choses à dire. Je suis très contente en fait de voir que sur des terrains, par exemple Lesbenring, sur la question de l'histoire des lesbiennes pendant la Deuxième Guerre mondiale et sous le fascisme, est en train de mener une action similaire à celle qui est menée par Ève Pascal et puis Isabelle Santis. Voilà, donc je pense que là, il y a des alliances, enfin des travaux en commun qui pourront être menés. Aussi, je suis très très contente de voir que Lesbenring aussi partage notre souci que nous intitulons notre souci sur les droits propres, c'est-à-dire l'égalité, la notion d'égalité, et en remettant en cause notre système fiscal, social, tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'on pense nous l'imposer comme étant évident. Je suis très contente, donc moi j'espère qu'on pourra se rencontrer ensemble, se rencontrer et travailler. Pour nos amis suisses, l'an passé, elles avaient organisé un congrès lesbien pour la première fois en Suisse allemande. Malheureusement, pour des questions de timing, on l'a loupé, mais j'espère que le prochain, nous n'allons pas le louper. Alors, il y avait aussi... à quelle date est-il ?
Alors, normalement, ce sera en septembre de l'an prochain, donc vous serez de toute façon informés, forcément.
De toute façon, j'aime bien ça. Et puis, ici, il y avait Maïté, qui avait une proposition à émettre. Je vais quand même lui passer la parole.
Bonjour. Maïté d'Avignon... Et j'en profite pour dire que, accessoirement, je suis présidente du collectif Droits des Femmes Vaucluse et qu'une lesbienne à la tête de ce type d'organisation, ben, c'est utile et ça fait avancer les choses. Mais ce n'est pas pour ça que je prenais le micro. Je prenais le micro pour vous montrer mon éventail qui a fait beaucoup de jalouses. On m'a demandé où je l'avais acheté ou obtenu. Et hier soir, en défilant dans la marche de nuit, une idée m'est venue en voyant toutes nos banderoles. Et j'ai participé à la naissance de la coordination lesbienne en 96-97. Et lorsque nous avons discuté de notre forme d'organisation, nous avons pensé aussi à choisir des couleurs pour nous représenter. Et ces couleurs, nous les avons choisies violettes pour la couleur des féministes des années 70, et le jaune qui est la couleur complémentaire du violet. Et vous remarquerez que dans notre programme, le programme du CEL, qui bien sûr est membre de la coordination lesbienne en France, tout est jaune et violet. Et je ferai la proposition, c'est quelque chose de léger, hein, ça n'a rien à voir avec toutes nos discussions sérieuses, mais si le jaune et le violet devenaient notre repère, ici il y a une bande violette, l'autre jaune, et si nos communications à travers l'Europe et au-delà utiliser les codes couleurs, bien sûr on reste libre, hein, bien sûr de toute notre communication, mais si à un moment donné le fait de se reconnaître comme organisation ou association lesbienne féministe, à un moment donné le jaune et le violet apparaissaient comme un logo, on y met ce qu'on veut. C'est pas forcément le logo propre de notre association, mais il vient en complément pour montrer que nous faisons partie d'un réseau international de lesbiennes féministes. Et je pense que la coordination lesbienne en France serait tout à fait partante pour que cette couleur s'élargisse à toute l'Europe et au-delà. Donc logo, impression de t-shirt, vous voyez ça, moi je veux bien en avoir un qui soit jaune et violet, hein. Ça montrerait à qui me posera la question, pourquoi ces couleurs, eh bien je suis lesbienne féministe, voilà. Donc c'était quelque chose de léger, mais pourquoi pas.